On va démarrer à un horaire un petit peu inhabituel, donc il y a peut-être des retardataires qui vont. Des personnes se sont signalées absentes et d'autres arrivent en retard. Et je vais vous demander à Nathalie Garcia, que j'aperçois là-bas, si elle peut, en tant que secrétaire de séance, faire l'appel.
Merci, monsieur le maire. Monsieur Charles Daillot.
Présent.
Monsieur Hervé Bayard arrivera en retard, donne pouvoir à monsieur Chauvin le temps de son arrivée. Madame Marie-Christine Bourdieu. Monsieur Farid Eba, Madame Eliane D'Arteron, Madame Catherine Piquet, Monsieur Gilles Chauvin, Madame Geneviève Dariosec, absente, donne pouvoir à Monsieur Mathieu Arras, Monsieur Jean-Marie Badby, Madame Chantal Planchenot, Madame Janine Lamaison, absente, donne pouvoir à Monsieur Charles Daillot, Monsieur Bruno Ruffia, Madame Pascal Horry, Monsieur Philippe Hérault,
présent.
Madame Marina Bancon, Madame Marie-Christine Arambat, absente, donne pouvoir à Madame Nathalie Gasse, Monsieur Pierre Merlet-Bonan, Monsieur Jean-Jacques Gourdon, Madame Nathalie Gasse, Madame Marie-Pierre Gazot, absente, donne pouvoir à Madame Eliane D'Arteron, Monsieur Hicham Lamsika, parfait.
Absent, procuration à Pierre Merlet-Bonan, donc c'est ça?
D'accord. Madame Claudie Breck, Monsieur Philippe Demarnix, Monsieur Christophe Ourcade, Monsieur Mathieu Arras, Monsieur Mathis Capdeville, Madame Delphine Leblanc, Madame Nathalie Garcia, Monsieur Jean-Baptiste Savary, absent, donne pouvoir à Monsieur Frédéric Dutin, Madame Céline Piau, Monsieur Alain Bachet, absent, donne pouvoir à Madame Céline Piau, Madame Françoise Cavagnier, Monsieur Frédéric Dutin, Madame Françoise Latrabe et Monsieur Benoît Piarine.
Merci Nathalie Garcia. Nous avons un ordre du jour avec 15 délibérations. Une délibération majeure, elles le sont toutes, mais qui pas une délibération qui est l'occasion pour nous de faire un débat d'orientation budgétaire à quelques semaines de la proposition de budget qui va vous être soumise et diverses délibérations. Avant de passer dans les délibérations, il s'agit de regarder si le procès-verbal et le compte-rendu de décision sont conformes à ce qui a été fait. Alors, procès-verbal, par contre, les compte-rendus de décision, je vais y venir après. Est-ce que sur le procès-verbal, il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Madame Piau, pardon.
Alors, ce n'est pas tant sur la retranscription du procès-verbal, mais c'est juste une information supplémentaire par rapport à la page 7 et 8 concernant la délibération numéro 4 qu'avait présentée Catherine Piquet. Vous vous rappelez, c'était sur l'appel à projet pour la pose de panneaux photovoltaïques flottants sur le bassin de stockage des eaux de Beaussier, où elle avait... expliquer que Alain Bachet était présent à la commission et Alain Bachet donc suivait par la radio le conseil municipal et m'avait envoyé un texto pour dire que non, il était absent. Et Catherine Piquet avait précisé qu'il avait eu les documents et donc c'est pour préciser que non, il n'a pas eu les documents. Voilà. Donc on ne pouvait pas être à même de bien connaître cette délibération puisque les documents n'avaient pas été distribués. Voilà, c'était juste cette précision. Merci.
Donc on va le noter. Je reviendrai peut-être sur ce point-là si vous le voulez. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision sur le compte-rendu je vais y arriver. Le procès-verbal, Monsieur Piarine.
Oui, bonjour à tous. Une intervention un petit peu récurrente. Hein. Malgré moi, il s'agit toujours de la convention qui nous unit au Stade Montois Rugby. La semaine dernière, lors du dernier conseil municipal, je comprends, mais je veux bien l'entendre, que la convention finalement n'a pas pu être modifiée, mais que des courriers attestent d'une politique tarifaire très en faveur du public, et que je vais les avoir, et évidemment je ne les ai pas. Donc si c'était possible, quand vous proposez quelque chose, de tenir vos engagements, ça m'éviterait à chaque fois de les réclamer au conseil municipal suivant.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Monsieur Hara?
Oui, juste pour sur la régie des eaux, Madame Piot, pardon. Je crois que tous les membres du conseil d'exploitation ont reçu par mail les délibérations. Enfin, moi, en tout cas, je les ai reçues. Je crois que Bruno aussi. Je sais que M. Bachet a parfois des problèmes avec son adresse mail. Il l'a fait changer dans plusieurs instances et peut-être pas à la régie des eaux, mais les autres membres, en tout cas, on les a reçus et, à ma connaissance, ils devaient être destinataires. Voilà. Je ne dis pas qu'il était à la commission. Je dis qu'on a tous reçu, les membres du conseil d'exploitation, les délibérations.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le PSG? Je vais essayer de faire des réponses sur ce qui a été posé. Non. Alors. Trois choses. La première, concernant le dossier de la régie, clairement d'ailleurs c'est lié à la géothermie, hein, puisqu'en fait c'est une compétence municipale, les autres sont passés sous le giron communautaire. Donc c'est bien de pouvoir, c'est bien dans le cadre d'un appel à projet, de pouvoir permettre de travailler sur des ENR et du photovoltaïque sur la retenue collinaire des 300 000 m3 de Beaussiette. Cette retenue, je le précise, elle est à destination du monde agricole et elle est là au terme d'un projet transmandat qui date déjà depuis un petit moment et qui a été inauguré en début de mandat, je crois, de pouvoir faire refroidir l'eau qui sort des réseaux de chaleur de façon à ce qu'elle puisse être... pas rejeté immédiatement dans le milieu naturel, c'est plus possible, mais de pouvoir être stocké, de pouvoir pallier au déficit d'eau pour, et c'est d'actualité, pour 4 ou 5 agriculteurs qui sont autour. Donc ça, c'est pour resituer les choses. Pour resituer les choses également, parce que je sais que ça fait l'objet d'un peu de débat, parfois un peu caricaturaux. Donc c'est une société monégasque de l'électricité et du gaz, la SMEG, qui a répondu. Il y a également Enerland, que l'on connaît. D'ailleurs, on les a fait intervenir avec Patricia Beaumont dans le cadre de l'agglomération. Et donc, qui ont répondu dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des marchés publics. Simplement, repréciser dans cette assemblée que le critère territorial, même si on aimerait faire bien évidemment... du circuit court, du local, etc., le critère territorial n'est pas un critère qui permet de déterminer ou de favoriser telle ou telle entreprise dans le choix d'un marché. L'analyse se fait sur des critères techniques et économiques. Selon les éléments du dossier, la société monégasque d'électricité et du gaz qui a été créée en 1890. Je le rappelle parce que là aussi, j'ai lu des choses qui sont intéressantes. Elle est détenue par, bien évidemment, la principauté de Monaco à 20%, mais aussi par Engie à 64% et EDF à 15%. Que contrairement à ce qui était dit, et d'après les éléments que j'ai de notre régie, aucune entreprise étrangère, excepté la principauté de Monaco, n'a des parts dans cette société. Il y a eu une analyse technique de l'offre d'Enerland, qui était bien notée et classée, mais la proposition financière était la plus faible. Alors, c'est 5 offres qui ont été reçues. 5 dossiers qui étaient donc entre 10 000 et 40 000 euros par an, on parle de la rétrocession, avec entre Enerland et SMEG des différences suivantes. Enerland avec un loyer rétrocédé de 10 000 euros par an, c'est-à-dire l'offre la plus faible, rien de plus, mais ce n'est pas le seul critère. Hein. La SMEG avec un loyer de 14 500 hors taxes, c'est-à-dire et plus une redevance variable en fonction du prix de revente de l'électricité. Avec la mise en place d'une communauté de consommateurs locale, modèle de l'autoconsommation. L'offre économique SMEG est donc plus complète et plus avantageuse qu'Enerland. En ce qui concerne les composantes, là aussi, je puis vous dire que, puisque c'est quelque chose qui a été écrit, que tous les fournisseurs qui ont répondu, tous, c'est ce qui m'est indiqué par nos techniciens, tous les fournisseurs, les composants viennent de toute façon du sud-est asiatique. Il n'y a pas de composantes locales. Et les fournisseurs qui se présentent en France dans l'Union européenne sont en fait uniquement des assembleurs. Les composants ne viennent pas de France ou de l'Union européenne. Pour Enerland, les fournisseurs identifiés dans le dossier, puisqu'il y a eu ce débat-là entre la provenance des composantes, donc pour Enerland, l'offre qui n'a pas été retenue, il y en a trois autres également, les fournisseurs identifiés dans le dossier sont entre autres SunPower, qui est un assembleur en France, mais qui est en cours de délocalisation au Mexique. D'accord ? Et Recom, qui est en Asie et un peu dans l'Union européenne. Pour la SMEG, le fournisseur est sélectionné au moment des travaux en tenant compte de l'impact carbone. Cet impact carbone est pris en compte dans la notation des projets. Dans les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, actuellement, la SMEG prend des panneaux à un fabricant canadien. Les fournisseurs sont très volatiles en fonction de l'évolution des marchés. En ce qui concerne le recyclage des panneaux est réalisé comme exigé par une directive CE dont je vous passerai les références. Le financement du recyclage est effectué via un éco-organisme qui est financé par une participation lors de l'achat des modules. C'est une notion de responsabilité élargie des producteurs. Donc, Enerland et la SMEC travaillent donc avec ces filières de manière identique. Là, il n'y avait pas de critères différenciants. Donc, c'était les éléments dont je ne possédais pas, et Cathy Piquet, qui va arriver, ne les avait pas non plus, forcément, parce qu'il y a des éléments un peu techniques, mais que nous avons demandé pour pouvoir vous apporter des éclairages et peut-être relativiser un peu ce qui aurait pu apparaître comme confier ce marché, cet appel à projet, enfin ce marché, faire en tout cas retenir comme candidat une société lointaine, étrangère, très capitalistique par rapport à une structure de proximité, Enerland, qui a le mérite d'exister, qui fait du bon travail. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on les a reçus à l'agglomération pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, notamment en matière de diagnostic ENR, de programme, etc. Donc il n'y a absolument aucun dogmatisme, sectarisme par rapport au choix. Il y a simplement des critères qui sont ce qu'ils sont. Et parfois, en cherchant un peu, on s'aperçoit que sur la partie approvisionnement, on s'aperçoit que même Enerland va sur des approvisionnements qui sont à l'étranger, et même bien loin d'ici, tout simplement, parce que la production, il n'y a pas de composants ici. Voilà. C'était ce petit point. Quant à j'entends ce que disait Mme Piau, notamment au travers de la voix d'Alain Bachet, donc on regardera en effet. Moi, il me semble que les documents sont partis. On regardera pour quelles raisons ils ne sont pas arrivés. Mais si vous le dites, c'est qu'il ne les a pas reçus. La deuxième chose, il s'agit du Stade Montois. J'essaye de faire dans l'ordre. On a un courrier qui a été reçu le 24 février. Alors, j'essaye de tenir mes engagements, mais je suis tributaire aussi des courriers des uns et des autres. Hein, le Stade Montois Rugby et les partenaires associatifs ne sont pas comme ça aux ordres de mes injonctions. Donc, je l'ai là. Je vais vous le faire passer immédiatement, mais je vais vous le lire. 24 février, monsieur le maire, vous nous avez questionné sur la politique tarifaire des places grand public envisagées par la nouvelle Tribune Nord. Ce projet vise à offrir au plus grand nombre des conditions d'accueil confortables aux standards des meilleures enceintes sportives actuelles, et nous sommes attentifs à la tarification des places. À ce jour, hors réduction, donc scolaires, étudiants, comités d'entreprise abonnés qui ont déjà des réductions, parfois même des gratuités, la tarification la moins élevée en tribune de gars est de 20 euros. Celle envisagée pour la nouvelle tribune, non arrêtée à ce jour, sera sensiblement inférieure, et pour les matchs à faible affluence, parce qu'ils ont une graduation en fonction des affluences, nous laisserons l'accès libre à tous les spectateurs présents en pesage, c'est-à-dire de pouvoir permettre au tarif pesage d'aller en tribune. Notre projet de développement vise à augmenter la fréquentation du stade, et nous sommes conscients que la population montoise et landaise doit pouvoir y accéder à un coût raisonnable. Malgré tout, il ne faut pas occulter l'aspect économique du projet qui doit permettre le remboursement de la dette bancaire, le développement du Stade Montois rugby amateur et professionnel, espérant avoir répondu à vos attentes. Donc voilà le document. Moi, j'ai suite à nos échanges et à votre remarque, monsieur Piarine, mais on s'était déjà inquiété de ça avec Farid Eba. Voilà le courrier que j'ai envoyé, le courrier surtout que j'ai reçu pour nous donner une tendance. Alors, ce n'est pas une tendance contractuelle, elle ne vient pas faire un avenant dans la convention, peut-être les prochaines conventions demander à ce que ce soit gravé dans le marbre d'une convention, mais voilà les tendances sur lesquelles on est. Je vous ferai passer ce courrier qui m'est parvenu assez récemment, somme toute, c'est pour la raison pour laquelle j'ai attendu cette assemblée pour vous le faire passer. Je crois, enfin en tout cas, je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'ai voulu rebondir sur les remarques qui étaient faites. Est-ce qu'il y a d'autres points sur le procès-verbal de la séance, sans quoi je vous propose de l'approuver? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Et on note donc la petite modification et la remarque de Madame Piau, page 7. Et donc y a-t-il des abstentions? Non. Donc il est accepté, validé. Et donc je vous propose de regarder les décisions que j'ai été amené à prendre dans le cadre de mes délégations. Il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il y a beaucoup de concessions de cimetières qui, je l'espère, ne devrait pas appeler beaucoup de remarques de votre part. Oui, il n'y a que des concessions de cimetières. Voilà. Donc, à moins que vous ayez besoin de faire des remarques sur ce sujet-là, je vous propose d'acter le fait que vous en avez pris connaissance. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. La première délibération, je vais laisser la parole à Christophe Fourcade, qui a un peu de travail aujourd'hui, pour nous présenter la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes. Vous en aviez un exemplaire sous les yeux, Christophe Fourcade.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a renforcé le rôle des acteurs publics dans la promotion de l'égalité femmes-hommes et prévoit que soit développée dans toutes les institutions publiques locales une approche intégrée de l'égalité femmes-hommes. Les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Les modalités et contenus de ce rapport ont été précisés par un décret. Donc vous avez pu lire les différentes pages de ce rapport et en consulter les chiffres. Ce que l'on peut préciser, c'est que malgré que des assemblées sont quasi paritaires au niveau local, les femmes sont très minoritaires à la tête d'exécutifs. Peu nombreuses en tête de liste, elles restent largement exclues du pouvoir effectif et ainsi 84% des collectivités locales sont présidées par un homme. Et en 2015, seules 10 femmes avaient pu accéder à la présidence des départements. Les femmes sont en revanche mieux représentées dans les vice-présidences, à une quasi-parité de 47% dans les assemblées locales. Au niveau de notre collectivité, bien sûr, l'importance de la filière technique, surtout à la ville, entraîne une écrasante majorité de la représentativité masculine, avec 73% de la population. Mais à contrario, les femmes sont surreprésentées, elles, dans les filières administratives. On retrouve cette différence de représentation dans la ventilation des catégories d'agents, sauf dans la catégorie A, avec un quasi-équilibre. Concernant les effectifs, peut-être que Monsieur le maire vous dira un mot sur le recrutement de notre future DGS, qui est une femme. Et pour vous préciser que ce rapport a été présenté la semaine dernière aux instances paritaires.
Deux petites précisions, et ce rapport ne doit pas bien évidemment être simplement une obligation légale et administrative qui nous donne bonne conscience. Il y a forcément un chemin à parcourir important. Deux petites choses que je note. Vous avez une photo inverse à l'agglo, forcément, puisqu'à l'agglo, nous avons plutôt des métiers, des compétences sur le social, le médico-social, le scolaire. Et il se trouve que les choses font que la présence féminine est plus importante à l'agglo en proportion que sur le technique à la ville. C'est lié à nos compétences, c'est lié aussi peut-être à des stéréotypes contre lesquels il faut travailler, mais c'est un constat. La deuxième chose, vous dire que si sur le pôle de direction générale, forcément, on est plutôt masculin, on constate quand même la montée en charge et en puissance de bon nombre de collaboratrices ou de responsables, de manageuses féminines sur les strates qui sont juste au-dessous dans bon nombre de directions. Je ne vais pas toutes les citer au risque d'en oublier. Attends, citer les directions, je ne citerai pas les noms. Donc il y a des prises de responsabilité importantes et des évolutions à ce niveau-là. Et puis donc, Christophe Fourcade vous l'a dit, nous avons acté, et je vous ai écrit en ce sens, le recrutement de notre nouvelle directrice générale des services qui s'appelle Madame César. C'est un signe par rapport à mes prédécesseurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne s'écrit pas tout à fait comme ça. Et qui vient de la région de Saint-Marcellin, qui est occupée aussi des fonctions de DGS, mais qui a un parcours voilà, sur lequel elle aura l'occasion. La date prévisionnelle de son arrivée est au mois d'avril. Je crois que c'est le 25, je ne suis pas très sûr. Voilà. Donc c'est une femme qui prendra la tête de cette, du bloc et de cette collectivité. Et puis la dernière chose, c'est vous dire aussi que dans notre direction des ressources humaines, qui a été amenée à se restructurer, à se renforcer, appelée aussi à quelques départs, on est sur des métiers qui sont souvent très courtisés avec des mutations, des aléas. Cette structure se renforce. Et avec notre DRH, il y a une personne qui a intégré cette structure et qui donc s'occupera maintenant de façon encore plus poussée, entre autres, de ce rapport égalité femmes-hommes qui était jusqu'à présent traité directement par la directrice des ressources humaines, prise par beaucoup de fonctions aussi. Donc là, ça permettra de s'améliorer, de le peaufiner chaque année. Mon but étant qu'au-delà des constats, on soit de plus en plus rigoureux sur les actions, voilà, et de pouvoir récupérer et valoriser et parler de toutes les actions, parce qu'il y a des actions RH, mais il y a aussi des actions qu'on fait de sensibilisation dans bon nombre de domaines. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce rapport? Il ne s'agit pas de dire on est pour ou on est contre, il s'agit simplement d'acter le fait que je voulais présenter. Avez-vous des remarques? S'il n'y a pas de remarques, on part du principe que ce rapport a été présenté dans cette assemblée. La délibération suivante, cher Christophe, il s'agit de la mise à jour du tableau des effectifs.
Oui, à la suite de la délibération le mois dernier sur la création de postes, il y a lieu aujourd'hui donc de supprimer les emplois initiaux qui ont été nouvellement créés. Et donc, vous trouverez le détail de ces postes dans la délibération. Et je vous prie de bien... Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, on a supprimé tous les postes, pardon, excusez-moi. Et donc, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs.
Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération classique où on voit qu'il y a à la fois des évolutions et des transformations et quelques créations? Création ne veut pas dire un poste nouveau, hein. Souvent c'est un changement de grade. Ou voilà. Des questions particulières? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est une autorisation qui nous est demandée par l'ATG sur le recrutement de contractuels, cher Christophe.
C'est ça. Sur la demande de la trésorerie, afin de répondre à nos obligations réglementaires en termes de fourniture de pièces justificatives, il vous est proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à recruter des agents contractuels pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels momentanément indisponibles. Les besoins des services peuvent justifier le remplacement rapide dans les cas limitativement fixés par le Code général de la fonction publique et au nombre de 5 est repris dans la délibération. Il nous est donc demandé d'autoriser M. le maire à recruter des agents contractuels pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels momentanément indisponibles.
Merci. Avez-vous des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Votées à l'unanimité. Nathalie Gasse, pour nous parler de la modification sur la charte associative.
Merci, Monsieur le maire. Donc, toutes les associations montoises enregistrées au niveau du service de la vie locale ont déjà signé cette charte, mais à ce jour, quelques modifications sont à apporter. Donc, malgré le contexte actuel qui fait suite à la période de la Covid-19, la municipalité a toujours fait le choix de maintenir une aide importante et constante à son tissu associatif par le biais de nombreuses subventions. Néanmoins, comme vous le savez tous, la collectivité doit faire face à des augmentations croissantes que la ville supporte seule. C'est la raison pour laquelle, afin de déduire les coûts générés par la crise énergétique, il est donc décidé pour l'ensemble de ces raisons de supprimer une gratuité de salles sur les deux habituelles. Concernant les salles de réunion, les locaux mis à disposition, donc les bureaux mis à disposition des associations, la gratuité de leur mise à disposition reste inchangée. En revanche, la gratuité des grandes salles de réception, à savoir donc l'Auberge Landaise, le Château de Nahuc, la salle Lamarcando, la salle Georges Brassens, la salle du Petit Bonheur et le Hall de Nahuc, est modifiée. Dorénavant, chaque association montoise ne bénéficiera que de plus de deux, mais d'une seule gratuité par an pour la location occasionnelle de ces salles. Toute autre mise à disposition sera facturée au tarif associatif en vigueur. Il convient également d'affiner certaines conditions de mise à disposition de soutien logistique lors d'événements se déroulant sur le domaine public pour aller vers une meilleure visibilité du calendrier des animations sur la ville. Vous avez tous les détails et les modifications surlignées en jaune dans l'annexe. Donc, en conséquence, il vous est demandé de valider les modifications de cette charte de la vie associative. Merci.
Merci, Nathalie Gasse. Avez-vous des interventions ?
Oui, s'il vous plaît.
Madame Cavagnier, puis Monsieur Dutin.
Oui, alors pour nous, il y a une contradiction entre votre proposition et ce qui est inscrit dans la charte que nous avions votée. Et je vous répète la phrase. La vie associative locale participe grandement au rayonnement de la ville. Grâce aux associations, Mont-de-Marsan est une ville de projets, d'activités. Ça, nous le pensons toujours plus que jamais. Donc, bien sûr, nous comprenons qu'il faille faire des économies en matière d'énergie. Mais nous pensons qu'elles ne doivent pas se faire sur le dos des associations, car les associations participent au dynamisme de la ville. Elles sortent les gens de l'isolement, elles animent, elles favorisent le lien social, l'éducation. Leur demander de payer des salles, c'est les brider dans leurs projets à venir et c'est les pénaliser financièrement. Pour nous, c'est un coup dur que vous leur portez. Nous pensons que les associations attendent du soutien financier et matériel également, et pas des sanctions. De ce fait, notre groupe votera contre la proposition.
Peut-être Monsieur Dutin, si vous voulez.
Oui, d'abord, Monsieur le maire, félicitations d'avoir recruté Madame César, parce qu'il y a quand même une grande vérité en matière politique, c'est qu'il vaut mieux avoir dans son équipe un César que un ou plusieurs Brutus. Sur le volet effectivement des associations, je vais faire effectivement chorus à ce qui vient d'être dit par Françoise Cavagnier. Je trouve que l'indicateur n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. J'ai l'impression que vous réalisez des économies qui sont des économies de bout de chandelle par rapport au tissu associatif qui est le cœur battant de la ville de Mont-de-Marsan. Combien de fois vous a-t-on entendu dans cette salle rappeler, et à juste titre, que les associations de Mont-de-Marsan sont le poumon de cette ville, sont également sa fierté, et puis permettent de créer le lien social, la cohésion, l'animation de notre ville. Il a souvent été indiqué, et à juste titre, que les associations doivent permettre par leurs activités de redynamiser notre cœur de ville. Notre cœur de ville qui, on peut tourner le problème dans tous les sens, est en train de mourir. La réalité est tout de même... la réalité est tout de même là. Alors, j'entends les réflexions qui sont portées par votre majorité, qui consistent à dire, mais il y a autant de commerces pratiquement qui ouvrent, qui ferment. Enfin, on est en train de fermer un certain nombre de commerces pour ouvrir d'autres activités qui ne fédèrent peut-être pas les mêmes publics. Donc, je dis que l'indicateur et le voyant, il n'est pas très brillant. Si les finances qui sont les autres ne sont pas bonnes, celles des associations et du tissu associatif, on sait très bien qu'il a été impacté par le Covid et donc les associations, au moins pour certaines, peinent effectivement à reconstituer leurs effectifs. Et l'indicateur que nous donnons à nos associations, c'est de leur dire, bien écoutez, sur les grandes salles, vous devrez payer. Ça n'a jamais été, au moins depuis plusieurs années, la politique qui était la nôtre. Et je trouve donc cela parfaitement injuste, alors même qu'il y a des décisions qui ont été prises dans cette salle. Et moi, je vais vous dire, je suis membre d'une association ou président d'une association, quand je vois ou quand j'entends les cadeaux qui sont faits à certains sur d'autres dossiers, je me dis tout de même qu'on se fout de moi lorsqu'on vient me faire payer peut-être une participation financière sur la location d'une deuxième salle municipale. Et si les membres de ces associations ou les présidents de ces associations ont le même sentiment que moi, je trouve qu'ils auraient bien raison de l'avoir.
Monsieur Pierrine.
Oui, peut-être sur un aspect légèrement différent, mais pas tout à fait. Est-ce que ce sont des économies de bout de chandelle ? Moi, en fait, c'est la question que j'ai posée en commission culture et vie associative, puisqu'on nous demande de nous prononcer sans les éléments. Et, comment dire, on peut dire que c'est fréquent. Voilà. Quelles sont les économies qui vont être réalisées grâce à cette décision ? Soit elles sont dérisoires, auquel cas il n'y a pas besoin de changer la charte, soit elles ne le sont pas, auquel cas il faut le dire. On a beaucoup parlé de transparence récemment en conseil municipal. Moi et nous, à Marsan Citoyens, c'est notre souhait que la vie politique soit complètement transparente. Il y a des commissions où les progrès sont réels, en urbanisme par exemple, où on travaille bien.
Monsieur Bayard, vous êtes reconnaissant.
Non, mais ce n'est pas le problème. Si vous pouviez faire passer le mot à tous vos adjoints que quand on pose des questions, on attend des réponses, ça serait déjà un premier pas. Donc, nous allons voter contre cette délibération en attendant d'avoir des justificatifs qui nous permettent de se rendre compte que c'est une bonne décision.
Je vais laisser la... Monsieur Arras, allez-y.
Oui, merci, monsieur le maire. On n'a pas eu de commission des finances, donc j'aurais bien posé la question, et je ne suis pas à la commission associative. Effectivement, c'est intéressant de savoir combien d'associations ça concerne par an et quel est le montant qui est en jeu. Je ne suis pas loin d'être d'accord avec à peu près tout ce qu'a dit monsieur Dutin. Voyez, y compris le début. Ah, je vous le confirme, y compris le début, oui. Peut-être même surtout. Mais non, plus sérieusement, parce qu'on ne va pas faire de jeu ce soir. C'est pas... Non, moi, c'est toujours vous qui voulez jouer, moi jamais. Ouais, mais oui, je sais bien, mais je suis bon partenaire. Non, très franchement, je ne sais pas combien ça représente. Je trouve que le signal n'est pas terrible. Il y a une histoire à Mont-de-Marsan, entre Mont-de-Marsan et ses associations. Si c'est une économie conséquente, il faut voir... Qu'est-ce que ça concerne ? Enfin, on n'a vraiment pas d'éléments en fait pour décider de ça. Donc moi, je m'abstiendrai.
Très bien. Je vais laisser Nathalie peut-être vous amener des éléments de réponse. Puis je prendrai la parole ensuite si tu es d'accord.
Pas de problème. Je vais commencer par Monsieur Pierrine. Quand il dit qu'il n'a pas eu de réponse, c'est pas vrai. En commission culture, vous avez eu une réponse. Je vous ai bien précisé qu'on n'avait pas fait de calcul. C'est une réponse. Le calcul n'a pas été fait. Je ne suis pas capable de vous donner une valeur précise. Toujours est-il qu'au vu de l'augmentation des fluides et des personnels qui entretiennent les bâtiments, il est évident que nous allons faire quelques économies. Effectivement, comme dit M. Dutin, des économies de bout de chandelle. Mais ce sont toujours des économies. Pour revenir à ce que vous avez dit, M. Dutin et Mme Cavagnier, je suis entièrement d'accord avec vous en ce qui concerne l'activité des associations au sein de la ville de Mont-de-Marsan. Et ça ne change pas. Effectivement, elles font preuve de dynamisme, elles animent le cœur de ville comme les différents endroits de la ville de Mont-de-Marsan. Mais jusqu'à maintenant, on ne leur fait pas payer le domaine public. On ne leur fait pas payer le matériel mis à disposition. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec les grandes salles. J'ai fait un rapide calcul sur... Donc, Monsieur Pierrine, j'ai quelques chiffres quand même. Pour l'année 2022, c'est 136 associations sur plus de 500, je dirais, actives sur Mont-de-Marsan. C'est à peu près 136 associations qui ont demandé... des grandes salles. Et sur ces 136 associations, c'est 55 qui seraient concernées par le paiement de la deuxième mise à disposition. Voilà. Mais sinon, je suis surprise, mais pas étonnée, de vos interventions. Mais pour votre information, aucune association ne m'a contacté ou n'a contacté le service de la vie locale
pour dire que ça leur poserait problème cette gratuité en moins. Parce qu'on on fait voter la charte aujourd'hui, mais les associations ont été prévenues en amont qu'il y avait des risques de changement. Merci, monsieur le maire.
Monsieur Dutin. Monsieur Dutin, il y a un match à 21h, il faut absolument qu'on batte Béziers.
Je n'y vais pas. Donc vous voyez comment j'ai tout mon temps. Donc, c'est
vous allez le regarder devant la télé avec un petit Armagnac et du domaine d'Ognoas.
Le petit Armagnac, ça m'a été suffisamment reproché. J'irai donc boire une bière dans un bar de la ville comme d'autres le font, si tant est que les autres en question soient là ce week-end. Je pense qu'ils seront là autour du marché comme d'habitude. Non, qu'est-ce que je voulais dire ? Je trouve, non mais Madame Gasque, très sincèrement, vous rendez compte la réponse que vous venez de nous faire là ? C'est-à-dire que vous venez de nous indiquer à une question qui est une question légitime de M. Piarine de nous dire mais quel est l'impact financier ? Vous nous dites je ne sais pas. C'est effrayant. Non, elle m'a donné qu'il y avait 136 associations qui étaient concernées et 55 seraient au conditionnel, on ne sait même pas. Et ça ne veut rien dire en plus, 55 seraient. Pourquoi ? Parce que dans vos chiffres, il y a 55 associations qui auraient demandé deux salles. Mais rien ne signifie qu'en 2023 ou en 2024, plus d'associations demanderaient à pouvoir bénéficier de l'allocation de deux salles. Ça ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire que vous nous faites voter une économie dont vous êtes incapable de nous dire l'impact que ça peut avoir pour nous. Par contre, ce que l'on sait, parce que ça c'est incontestable, c'est que ça aura un impact sur ces associations-là. Voilà la réalité. Donc, une fois de plus, on y va comme ça. Et puis surtout, je veux dire que lorsque vous faites ces déclarations à l'égard des associations, mais enfin, c'est comme un amour. Pour un amour, il faut donner des preuves d'amour. Eh bien, là, très sincèrement, je ne sais pas ce que vous apportez dans la corbeille du marié, mais que des larmes, hein. Là, c'est des larmes que vous apportez. Donc, les témoignages d'amour, il faut les donner. Je l'ai déjà dit pour un autre sujet, dans un autre lieu, à M. de Marnix. Je veux dire que lorsque on veut montrer que l'on est attaché ou que l'on aime quelque chose, et je pense au Festival Flamenco, eh bien, on donne des preuves d'amour. Ben, voilà les preuves d'amour que nous donnons aux associations. Mais je suis sûr que vous les aimez. Mais les preuves que vous leur donnez, ben, ce sont ceux que vous avez et ceux que vous allez voter, votre majorité.
Madame Piau, et après je vais essayer de donner quelques éléments de mon côté.
Si oui, je pense qu'il y a un calcul très simple à faire. Hein, si vous voulez faire des économies, vous récupérez les 1,5 million du cinéma, de la subvention. Voilà, c'est tout. Et vous ne faites pas payer les associations la mauvaise gestion de ce sujet, de ce dossier.
Les 1,5 million du cinéma qui auraient pu être 3 millions avec votre ami M. Romanello. On va fermer la parenthèse. Je vais vous parler des associations parce que c'est celle-là et... Et je suis d'accord avec vous. Je vais essayer de vous donner des preuves d'amour, pas forcément à vous directement, mais des preuves d'un amour qui est ancré dans la plupart d'entre nous, parce que vous avez autour de la table, pas forcément chez tous ceux qui se sont exprimés, mais je ne connais pas les vies associatives que vous avez, mais les preuves de gens qui sont tous des bénévoles en puissance, qui savent ce que c'est que de faire cuire des saucisses un dimanche, d'amener des gamins à une... Je ne vous ai pas interrompu. Mais c'est la vérité, c'est la réalité. C'est la réalité. De payer sa licence, de faire cuire les saucisses, d'amener des gamins un dimanche qui ne sont pas forcément les siens, de faire de l'entraînement, voilà, de faire tout ça. Donc vous avez ici une grande majorité de gens qui ont, avant d'être élus, fait ça et qui ne le font plus pour d'autres raisons. Alors, simplement, les preuves d'amour, vous en voulez pour les associations ? Et je trouve que c'est un peu caricatural de dire tout d'un coup que la terre s'arrête de tourner pour les associations. Je peux vous dire qu'on les a en direct, elles sont loin de nous dire ça. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut se dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est que jamais, jamais, nous n'avons donné autant, jamais, hein, autant aux associations. Jamais. On va être... Alors, je ne peux pas... vous dire exactement les montants exacts de ce tableau-là qui doit être soumis à des commissions dans lesquelles je crois. L'opposition, la majorité est présente pour arbitrer des propositions par les assurances, on va atteindre le million d'euros. 1 million d'euros est donné aux associations en Noirceau. Trouvez-moi une ville Dans les Landes, ça n'existe pas. Et en Nouvelle-Aquitaine, 30 000 habitants qui donnent 1 million d'euros à son tissu associatif. Ce n'est pas évident, hein, avec un certain nombre d'associations. Donc jamais 1 million d'euros, ça c'est les subventions qu'on donne. Et ensuite, il y a toutes les mises à disposition. Parce que là, on est en train d'épiloguer, de caricaturer sur les grandes salles. On est en train de parler de l'Auberge Landaise, de Nahuc ou de grandes salles. C'est bien cela, hein ? D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de parler du basket masculin ou de deux, trois associations qui font des lotos plusieurs fois pour aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses parce que sont sur des économies, des modèles économiques qui ont besoin de faire rentrer et que la puissance publique ne peut pas complètement tout sponsoriser. Donc on est en train de parler de ces gens-là. On n'est pas en train de parler d'associations qui ont une assemblée générale. Celle-là, elle est gratuite. Puis après, qui arrivent à aller dans des salles plus petites qui, elles, sont gratuites. Donc c'est 1 million d'euros donnés tous les ans, un tout petit peu moins. Je crois que c'est 947 000 euros. On verra si c'est voté ou pas entre vous. 1 million d'euros. D'accord ? C'est plus d'1 million d'euros de mise à disposition. Ne paye pas les fluides. Les fluides, je peux vous garantir, on en reparlera dans le budget, que c'est une belle augmentation. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas dire que tout d'un coup, les associations sont pénalisées, que le signal est mauvais. On n'a jamais donné autant aux associations. Ça, c'est une vraie preuve d'amour. On a donné et on a fait le job pendant la période Covid. Elles n'avaient plus d'activité. Certes, plus de rentrées, mais plus de dépenses non plus. On en a maintenu les subventions. On a maintenu les subventions. On a fait des gratuités. Pendant la période Covid, après Covid, pas de paiement de fluide. La gratuité sur toutes les salles, une fois. C'est que les grandes salles, là, on est en train de parler de... Alors moi, ça ne me pose pas de problème qu'il n'y ait pas eu un calcul scientifique pour savoir qui ça concernait. C'est dérisoire, c'est des économies de bout de chandelle. Alors la question... Attendez, pourquoi on les fait ? Parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi le principe, le modèle. Tout le monde doit donner un signal. On est tous, c'est de l'argent public, on est tous dans le même bateau. Ben voilà, on éteint la lumière en sortant, on fait attention. C'est des pratiques comme ça. On fait gaffe quand on a deux... C'est du concret, je vous parlais des saucisses dans les congélateurs. Quand vous avez un congélateur ouvert, vous avez une barquette de saucisses, ben peut-être qu'il faut le mettre tout dans le même congélateur. Quand il y a 15 congélateurs et qu'il n'y a pas grand-chose dedans, on peut peut-être le débrancher. C'est des choses concrètes. Donc, et tout ça, on a associé le monde des associations. Ils sont tout à fait conscients du problème parce qu'eux aussi, ils ont des factures d'électricité à payer. Donc, il ne faut vraiment pas se dire que tout d'un coup, c'est la fin du monde pour les assos. C'est presque 200 et quelques associations qui vont faire partie de ce tableau. Je ne le dévoile pas là parce que ce serait irrespectueux vis-à-vis de la commission, mais c'est ce qu'on va vous proposer. D'accord ? On n'en diminue pas, on en augmente. Je crois j'ai regardé. Ce qui va vous être proposé, c'est 200 associations, il y en a à peu près 25 culturelles, 43 sur la solidarité, santé, les anciens, les enfants, les gens démunis, 70 associations sportives, associations et clubs, hein, parce qu'il y a des sections d'associations. Je veux dire, est-ce qu'il y a une ville de notre taille, dans un périmètre pas trop lointain, qui permet à des gamins d'avoir 52 sports différents ? Non. Voilà. Est-ce qu'il y a une ville de notre taille qui a 10 clubs en national ? Non. Voilà. Et on soutient ces clubs-là, et ce n'est pas évident. Donc vous ne pouvez pas dire, je trouve que c'est un peu caricatural, de dire que tout d'un coup, la vie s'arrête, qu'on le signal, etc. Le signal, je trouve qu'il est vertueux, on est tous là dans le même bateau, bah, on fait un petit effort ensemble. On a fait dans le plan sobriété avec nos services, on a fait des affichettes pour essayer que tout le monde se discipline, éteigne la lumière, voilà, optimise les trucs. C'est 1 million d'euros de cash, et c'est plus d'1 million d'euros de mise à disposition. Donc ici, les associations, elles ne payent rien, d'accord ? Elles ne payent rien, à l'exception de celles qui multiplient peut-être des lotos ou des opérations dans les grandes salles, mais il y a aussi une logique économique. Voilà, on ne baisse pas l'effort sur les associations. Je vous l'ai dit, c'est 15 à 20, si vous votez prochainement ce tableau-là, qui vont être augmentés en 2023. Le Stade Montaux-Omnisports, par exemple, on en parlait. Bah, le fait qu'on les aide aussi avec le siège qu'ils vont construire, bah, on participe aussi à cette opération en ne faisant pas de spéculation huilière dans ce qu'on va leur céder, en respectant le prix des domaines, et en leur apportant la moitié de ce qu'on va leur vendre, 44 000 euros. Vous voyez, tout ça, dire que les associations paieraient tout d'un coup, ne seraient plus aidées, ce n'est pas la vérité. On est loin de ça. Et ça, c'est vraiment, vous parliez de preuve d'amour, ben, je suis désolé, si ça ne vous suit pas 1 million d'euros plus 1 million de plus là-dessus, bon, alors j'entends, c'est un mauvais signal. Non, moi je trouve que c'est un bon signal. Tout le monde doit se serrer les coudes dans le contexte que l'on connaît. Monsieur Piarine, la fois d'avant, me parlait des boulangers. Dans le compte-rendu, là, il me parlait les pauvres boulangers, etc. C'est pas normal, il faudrait peut-être plus aider les boulangers que ravaler les façades. Je me souviens de ce truc-là. Et les boulangers, on les a aidés. Pendant le Covid, on a fait les bons d'achat. Là, récemment, avec notre service d'économie, on les a sensibilisés, on les a accompagnés pour avoir les aides, les boucliers, etc. C'est pas non plus nous qui faisons toutes les mesures d'aide aux boulangers. J'étais avec le président de la Chambre des métiers tout à l'heure, qui me disait il y a une vingtaine de boulangers sur Mont-de-Marsan agglomération. On les a tous appelés, il y a eu une cellule de veille, il y a eu des webinaires avec la Chambre. Voilà, on ne laisse pas comme ça. C'est facile de jeter à l'emporte-pièce des... Alors, l'argent, on aurait pu le mettre là, mais il faut s'occuper de tout le monde. Mais vous ne pouvez pas dire que tout d'un coup, il y a une politique sur les associations qui... Ce message, il est caricatural parce qu'il est faux. Il est faux. 1 million d'euros de cash et 1 million d'euros de bâtiment. Les associations chez nous, elles ne payent pas. Et tout simplement parce qu'on est tous ici, et vous aussi, très attachés au monde associatif. Et puis nous, on a une vie aussi où on était à faire cuire les saucisses. Voilà.
L'argument des plus d'un million d'euros de mise à disposition, vous l'avez déjà utilisé le mois dernier, et il me semble que vous aviez parlé de 2 millions d'euros, mais je peux peut-être me tromper. Est-ce qu'on pourrait avoir le détail de ces mises à disposition et des fluides association par association ?
Il peut le faire, pas tout de suite. Hein. Vous me laissez un peu de temps ?
Non, mais peut-être que vous pouvez le déléguer.
Oui, non, mais d'accord, mais je suis pas Gérard Majax ni Houdini, donc oui, on l'a, parce que d'abord, on l'a, parce qu'on doit d'ailleurs comptablement souvent le valoriser, donc on l'a. Alors, laissez-leur 10-15 jours pour vous le faire passer. Sur cette charte de vie associative qui a donné lieu à des échanges, y a-t-il des voix contre ? Aidez-moi pour les... Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voix contre, 7 voix contre. Y a-t-il des abstentions ? Donc, M. Hara, avec la procuration de Mme Dariussec, s'abstient sur cette charte. Et pour l'ensemble, donc, c'est voté à la majorité. Philippe de Marnix, parlons de sculpture.
Merci, M. le maire. Il s'agit pour notre collectivité d'accepter au profit du musée d'Espleuve-Léric le don d'un certain nombre d'œuvres et d'éléments techniques offerts par le sculpteur bien connu et apprécié des Montois, Christophe Charbonnel. Cette donation, qui fera l'objet d'une convention entre la ville et l'artiste, permettra, dans le cadre de la rénovation du musée, de compléter, d'enrichir la collection, également d'accorder une place plus importante au renouveau de la figuration chez les sculpteurs contemporains. Tout le monde sait que ce qui fait la spécificité, la force du musée d'Espleuve-Léric, c'est l'importance de son fonds de sculpture figurative, mais plus orienté sur la première partie du XXe siècle, avec des artistes comme Christophe Charbonnel. On montre que la culture figurative existe toujours et se perpétue, y compris au XXIe siècle. Ces œuvres seront inscrites à l'inventaire du musée après avis favorable de la commission régionale d'acquisition des musées de France. Vous avez tous pu prendre connaissance du détail de cette donation qui comprend plusieurs sculptures et notamment deux très jolis bronzes, un cavalier et un homme à la pierre, des dessins et quelques éléments d'atelier. Voilà.
Merci Philippe, est-ce que vous avez des remarques sur cette sculpture qu'on connaît bien, qui fait partie de notre histoire ?
Oui.
Madame Cavagnier.
Bon, alors évidemment, c'est une excellente nouvelle. Le don de ces œuvres d'un artiste local, montois, reconnu, et nous aimons beaucoup ces œuvres, et c'est une excellente nouvelle. Mais ceci nous amène à parler du musée. Notre groupe a voté pour le projet muséal. Pourtant, nous avions émis des réserves à cause de ce budget pharaonique qui était déjà annoncé à 14,5 millions d'euros, mais qui va certainement être dépassé. Et j'imagine que nous allons en parler à la commission culture qui se réunit le 23 mars, je crois, enfin fin mars. Voilà. Parce que cela nous inquiète. Moi, j'ai été reçue, et je les en remercie d'ailleurs, par M. Bayard, M. de Marnix et les services techniques de la ville, dans la rue des Arceaux. Donc c'était à ma demande lors du dernier conseil municipal. Et donc, a priori, la rue des Arceaux va être rénovée, nous l'espérons. Et c'est une bonne nouvelle. Et dans cette rue des Arceaux, j'ai dit à M. de Marnix et à M. Bayard que pour moi, il fallait qu'il y ait de la cohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se doter d'un magnifique musée, on va dire même d'un somptueux musée, si tout autour, le patrimoine culturel de la ville historique ne suit pas. Il faut de la cohérence. Et ce que nous craignons, c'est que le budget soit tellement, le budget consacré au musée soit tellement important qu'il n'y ait plus assez d'argent pour rénover, par exemple, la rue Maubec. Dans la rue Maubec, il y a les maisons romanes qui font partie des guides, qui sont surtout les guides touristiques. Quand vous allez dans la rue Maubec, voir la maison romane, elle n'est absolument pas mise en valeur. Et surtout, il y a ce petit passage entre la rue Maubec et la rue Armand-Dulamont qui est complètement dévasté, qui tient, on ne sait comment, par des étés. Bon, c'est une rue qu'il faudrait rénover. Il y a d'autres choses. Par exemple, la ville est dotée de lavoirs, de magnifiques lavoirs anciens, mais ils ne sont pas en bon état. Et on peut penser que les personnes qui vont venir visiter le musée sont des historiens, sont des personnes férues d'art qui, en sortant du musée, vont avoir envie d'aller se promener dans la ville. Et donc, il faut que ça suive. Donc, cela nous inquiète. Autre chose concernant le musée. Donc, si j'ai bien compris, le musée devrait réouvrir en 2025, à l'été 2025. C'est à peu près. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 2 étés à vivre sans le musée. Alors, qu'est-ce qu'il est proposé ? Moi, je suis allée sur le site du musée pour voir ce qu'il était proposé pendant ces 2 étés où le musée va fermer. Parce que, évidemment, les touristes vont affluer à l'office du tourisme pour armer de leur guide, où il est mentionné que dans la ville de Mont-de-Marsan, il y a un musée d'espions numériques. Ben, ils vont se retrouver devant des grilles fermées. Et qu'est-ce qu'on leur propose ? Ben, ce qu'on leur propose, c'est un circuit hors les murs. C'est-à-dire un circuit pour découvrir les sculptures de la ville, mais virtuel. C'est-à-dire qu'ils vont aller de sculpture en sculpture avec leur téléphone portable, s'ils en ont un, tout le monde n'en a pas. Ils vont devoir scanner un QR code, encore faut-il savoir le faire. Et donc ça, on va passer 2 ans comme ça à proposer à nos touristes une visite virtuelle de la ville armée d'un téléphone. Ça n'est pas très sérieux, alors qu'il y aurait d'autres choses à faire. Notamment des promenades avec des guides, pour remettre de l'humain là-dedans. Par exemple, justement, si les lavoirs étaient rénovés, la promenade des lavoirs, avec un guide, aller de lavoir en lavoir. Nous avons des graphes, des magnifiques graphes à Mont-de-Marsan, et dont un qui a été réalisé récemment. Pourquoi ne pas organiser une promenade des graphes dans la ville, mais avec un guide qui va amener les touristes de graphe en graphe. Voilà. Bon, ce sont des idées... Que nous avons pour remettre de l'humain et proposer aux touristes quelque chose de valorisant pour la ville en attendant que le musée réouvre.
Oui, effectivement. Bien sûr, je comprends vos interrogations en ce qui concerne le musée. Effectivement, c'est un investissement très important, un investissement qui est grévé en plus, comme que tout le monde peut s'en douter, par l'inflation du cours des matières premières. C'est malgré tout un projet phare de notre mandat. Nous tenons à le mener à bien, avec un nouveau calendrier, parce qu'un projet de cette ampleur dépasse l'échelle d'un simple mandat. Donc, quelque part, sur la partie financière, je vous rassure un peu, toutes les finances de la ville ne vont pas passer sur ce mandat, sur le musée. Et dans cet esprit, donc, les équipes du musée, les équipes des services techniques ont travaillé, donc là je vous l'apprends, sur un nouveau phasage, un phasage qui se déroulera en 2 grandes tranches. La première tranche démarre en 2024 et se déroulera jusqu'en 2027 et permettra à ce moment-là une ouverture du musée, donc une ouverture du musée donc, au public et une présentation des collections. La deuxième tranche, elle se terminera en 2029 et permettra de terminer l'intégralité des travaux. Pour rentrer un peu plus dans les détails, donc on a trouvé certaines pistes d'économie, notamment sur les réserves qui seront externalisées, qui permettra de faire une économie substantielle par rapport au projet initial qui prévoyait de les enterrer. Ces réserves, donc, nous réfléchissons à un site extérieur pour les construire, ce qui permettra parallèlement, donc, dès 2024, de détruire les bâtiments existants de Saint-Vincent et de démarrer en 2025 les travaux de construction de la nouvelle galerie d'exposition temporaire et de la galerie permanente. Le tout sera ouvert en 2027 et la deuxième tranche, elle, sera consacrée à des aménagements extérieurs, à la construction du nouvel accueil tourné vers la rivière et l'aménagement de la maison du baleine. Donc c'est un projet que nous mènerons à bien, mais dans un temps effectivement plus long que ce qui avait été initialement imaginé. en ce qui concerne vos suggestions, sur les, je ne répondrai pas sur les travaux à faire sur le patrimoine, parce que c'est, on vous a répondu, ce sont des choses que nous allons faire étape par étape. On ne va pas sur une seule année à la fois s'occuper de la rue Maubec, de la rue des Arceaux, des Lavoirs. Ce sont tous des sujets qui nous préoccupent, mais comme vous l'avez dit, on les fera les uns après les autres. Et le premier chantier sur lequel nous commençons à travailler, c'est celui de la rue des Arceaux. En ce qui concerne vos suggestions de travailler sur des visites de la ville, sur des suggestions sur lesquelles on est prêt à réfléchir et pourquoi pas à travailler avec vous, ça me paraît être une idée tout à fait positive. J'espère avoir répondu à vos remarques, madame.
Voilà, oui, je voulais simplement dire que nous avons des ressources auxquelles nous ne pensons pas forcément, mais qu'il faut y ajouter de l'humain. Parce que moi, je ne crois pas du tout à ces visites armées d'un téléphone portable à scanner des QR codes. Je n'y crois pas du tout.
Les deux.
C'est ce que toutes les villes font de nos jours. Lorsque vous dites que tout le monde n'a pas de téléphone portable, je ne sais pas s'il y a parmi nous des gens qui n'en ont pas, mais ça devient assez rare à trouver.
Vous savez qu'il y a des personnes un peu âgées aussi, oui, qui aiment bien l'art, qui aiment bien découvrir les sculptures. Oui. Non, tout le monde n'a pas de smartphone.
De moins en moins,
mais tout le monde ne sait pas scanner. Non, tout le monde ne sait pas le faire. Ça.
C'est une pratique moderne que l'on voit dans toutes les villes. Après, ça ne dispense pas aussi d'organiser des visites guidées. L'un ne se fait pas au détriment de l'autre.
Plus forcément des gens.
Je pense que
voilà.
Tout peut coexister.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques, s'il vous plaît, Monsieur Dutin?
Projet phare donc de votre mandature. Mais c'est normal hein, que vous ayez l'espoir d'enchaîner, mais qui se terminera donc en 2029 si vous êtes élu pour une nouvelle mandature. Donc.
C'est ça à quoi nous employons.
Vous avez toujours vu vous voyez qu'on a une équipe qui est pleine d'optimisme. Après, partageons, et je pense qu'il n'y a même pas de débat entre nous, alors après on peut avoir des débats pendant les travaux, mais partageons ensemble une ambition qui doit être au-delà même d'une mandature. On voit bien que tous les grands projets de musée, on voit à Bayonne, les pauvres, ça a duré 25 ans, ça ne durera pas 25 ans ici, mais on voit bien que tous ces projets-là qui sont des projets structurants, et qui, quoi qu'il arrive, sont des projets qui doivent demain nous faire basculer dans autre chose. On est tous partagés le fait qu'on a une spécificité ici, qui nous distingue un peu de ces villes du Grand Sud-Ouest ou de l'Aquitaine, c'est qu'on a un fonds muséal exceptionnel, mais qui n'est pas mis en valeur. Donc ça, on peut le partager. Il y a un point, par contre, sur lequel Philippe n'a pas... On a toujours cette... je ne dis pas épée de Damoclès, mais toujours cette incertitude liée dans ce secteur-là aux fouilles archéologiques. Où là, forcément, on a des sondages qui sont faits. Je vous remercie, Mme Cavagnier, d'avoir pensé à ces touristes qui affluent vers notre ville et l'autre ville du tourisme. C'est la preuve que notre ville est attractive. Merci. Et d'avoir souligné aussi le parcours street art, ou graph, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui s'est étoffé à l'initiative de mon ami de Marnix, qui a bataillé pour qu'on affecte un budget sur les différentes œuvres et graphiques que l'on peut voir émerger en ville et dans la coursive des arènes, notamment. Donc bien évidemment que plus on aura ce parcours étoffé, plus on pourra travailler avec l'OTCA pour avoir des greeters ou des gens qui font ce parcours. Un parcours patrimonial, un parcours de sculpture, un parcours mémoriel, un parcours de graphe, ouais, on peut faire des choses comme ça avec des parcours différents. Sur ces dons des œuvres où on est tous à peu près en phase, est-ce que je vous propose de passer au vote? Y a-t-il des votes?
Si vous permettez, monsieur le maire, en parlant justement de projet transmandat, je rappellerai juste celui de la médiathèque qui a été rêvé par Philippe Labeyrie et réalisé par les équipes de Geneviève Darrieussecq. C'est un exemple comme d'autres.
Et qui s'en est accaparé la paternité avec un grand plaisir, c'est vrai.
Mathieu, avant de vous passer la parole, là, je ne vous permets pas de dire ça, sincèrement.
S'attribuer la paternité de quelque chose en...
Il a fallu le financer.
En invitant la personne pour la première pierre, en calant la date, en fonction de son agenda et en lui donnant son nom, c'est une manière d'apporter, de s'accaparer les choses que j'aimerais voir plus souvent.
Sincèrement, il a fallu la financer aussi, donc je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui est transmandat. Vous ne pouvez pas dire ça.
Pour autre chose, juste une question. Du coup, les œuvres de Charbonnel, elles vont être exposées quand et à quel endroit? Et quand est-ce que le musée va réouvrir? Du coup, excuse-moi Philippe, je n'ai pas bien compris la partie, le donjon.
C'est ce que j'ai dit, Mathieu. Donc,
les... 2024, c'est ça?
En 2027. Non, 24, c'est le début des travaux.
Ça réouvre en 24. Non, d'accord, j'ai mal compris. Il y a une réouverture en 24?
L'ouverture des expositions permanentes se fera en 2027.
Ah, j'ai compris, 24.
La réception et la présentation des œuvres de Christophe Charbonnel se fera à ce moment-là. On ne va pas les prendre maintenant pour les stocker.
va se faire à ce moment-là. Voilà.
Sur cette délibération, dont des œuvres, qui y a-t-il des voix contre, y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Philippe, il s'agit de nous présenter, c'est voté donc à l'unanimité, et il s'agit de nous présenter la convention avec l'hôpital pour la partie culture.
Oui. Donc dans cette délibération, il s'agit d'approuver la mise en place d'une convention de partenariat entre le musée d'Espiau-Vlérick et le centre hospitalier intercommunal, donc l'hôpital Lahiné, les sites qui y sont rattachés. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du programme Culture et Santé, initié par les deux ministères de tutelle, dont l'objectif est de mettre la culture à la portée des publics hospitalisés. Un travail collaboratif a donc été initié depuis les derniers mois entre les équipes du musée et celles du centre hospitalier, dans le but de mettre en place les actions suivantes. En premier, donc, des projets hors les murs, à destination des patients et résidents, ainsi que la crèche du personnel. Ensuite, l'exposition temporaire d'œuvres dans les différents sites du centre hospitalier intercommunal, durant la fermeture du musée. Donc ça concernera l'hôpital Lahiné, Sainte-Anne, l'école d'infirmiers, la clinique des Landes, les différents sites. Et une réflexion est également en cours sur l'implantation permanente de quelques œuvres dans les futurs espaces de l'hôpital Lahiné. Je parle du plateau technique qui est en cours de construction. Donc là, dans ce cas, il s'agira d'un prêt permanent, un peu dans le même ordre d'idée que ce qui s'est fait avec le tribunal. Il s'agit aujourd'hui d'une convention cadre. Des conventions spécifiques seront ensuite établies au cas par cas. Et pour compléter votre information, les premiers ateliers pédagogiques se tiendront dès le mois d'avril prochain à l'EHPAD de l'Esbazaille. Voilà.
Des remarques sur cette convention, Madame Cavagnier?
Oui, alors c'est un très beau projet, puisqu'il consiste à amener l'art à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les lieux artistiques. Moi, j'ai connu à titre personnel une expérience de ce type dans les écoles il y a 5 ou 6 ans. Donc, c'est une expérience qui a été menée par le Centre d'art contemporain et l'AGEM, qui est l'association des enseignants d'école maternelle. Et ça s'appelait l'art en balade. Alors, c'est un artiste contemporain qui a prêté une œuvre, c'était un tableau contemporain, qui s'est promené dans différentes écoles de l'agglomération. Et donc, ce tableau est resté un mois dans une école, puis le suivant dans une autre. Donc, cette œuvre s'est promenée. Et pendant le mois où l'œuvre était dans une école, les élèves ont travaillé autour de cette œuvre, ont discuté autour de cette œuvre, ont proposé des créations, créé des œuvres sculptées, peintes. Et nous nous sommes retrouvés à la fin de l'année dans la salle Lamarck Kando. Toutes les écoles qui avaient donc reçu cette œuvre et avaient participé se sont retrouvées dans la salle Lamarck Kando et pour une très belle exposition qui a tissé du lien social autour de l'art. Donc c'est un peu le même esprit, l'histoire de l'hôpital, mais pourquoi ne pas l'élargir tant que le musée est fermé et qu'il y a des œuvres à disposition, des tableaux, des sculptures? Pourquoi ne pas proposer d'en installer dans les crèches, dans les EHPAD, dans les structures qui accueillent des personnes handicapées, de manière à ce que, justement, l'art aille vers eux et que chaque résident ou élève puisse exprimer sa sensibilité pour se retrouver, par exemple, à la salle Lamarck Kando, autour d'œuvres créatives inspirées des sculptures et tableaux issus du musée. Voilà, donc c'est une proposition que je vous fais parce que je trouve que c'est une très bonne idée que l'art aille vers ceux.
Vous n'avez que des très bonnes idées.
Celles et
vous
ceux
en avez beaucoup,
qui ne peuvent pas y aller.
Mais elles sont toutes,
voilà,
très bonnes.
Mais je vous remercie.
Et on est obligé, oui, de les planifier, mais vous avez beaucoup de, voilà, bonnes idées.
Oui, j'ai.
Monsieur de Marnix, vous êtes d'accord avec moi, elle a beaucoup de bonnes idées.
Oui,
absolument.
Elle en a beaucoup,
oui,
mais elles sont, voilà, toutes bonnes.
Elles sont bonnes, hein?
Elles
sont bonnes. Donc voilà.
Excellent. Mais bon, nous allons dans ce sens. Il faut juste, sans vouloir mettre un bémol et doucher cet enthousiasme, ne pas oublier que les œuvres du musée ne se déplacent pas.
Il y a des plâtres, beaucoup de plâtres.
Aussi facilement que ça, il y a des contraintes.
Non, mais ça n'a pas besoin d'être une œuvre monumentale. En ce qui concerne l'école, c'était un tableau de taille tout à fait raisonnable. Ouais. On n'est pas obligé de mettre la statue du maréchal Foch. Hein. Il y a aussi des petites œuvres, des petites sculptures, oui, des petits tableaux qui peuvent se déplacer sans problème dans un EHPAD, dans une crèche. Voilà, je ne vous parle pas d'une œuvre monumentale.
Non, il ne s'agit pas que
de la victoire de Savonthras.
sinon on pourrait le faire, nous on pourrait s'y mettre et les porter. Il y a aussi des règles de conservation, des règles de prêt. Il s'agit beaucoup d'œuvres à partir du Musée de France. Quand je dis on ne les déplace pas comme ça, ce n'est pas uniquement une question de porter.
Il y a des histoires d'assurance
juridique,
mais enfin, voyez,
de convention à mettre en place. Donc ça se fait, mais voilà.
C'est tout à fait possible.
OK.
Voilà, comme vous dites très souvent, monsieur le maire, il ne faut rien s'interdire.
Bien sûr.
Voilà.
Absolument.
Bon, et ça va dans le.
On ne peut rien s'interdire, on peut élargir.
Très bien. Et ça va dans le sens de l'itinérance qu'on essaye de prôner sur d'autres volets culturels, puisque les grands outils culturels que nous avons, vous les connaissez. Vous avez cité la médiathèque Philippe Abeyri, qui travaille sur l'itinérance avec le réseau de lecture publique pour aller vers, notamment avec un réseau, alors c'est l'agglo, vous me direz, mais enfin, c'est le territoire. C'est le cas du Café Musique qui, pendant les travaux, va vers. C'est le cas du Théâtre de Gascogne qui a un label Art et Territoire, donc il va vers, il va à Grenade, il va à Sabre, etc. Et les sculptures, il faut que ça sorte, il faut que... Voilà, c'était aussi les initiatives que nous prenions de faire rentrer des publics complètement différents. Rappelez-vous de cette exposition sur les joueurs de rugby avec les sculptures, etc. Pour faire rentrer des gens qui ne vont jamais au musée. Donc là, profitons de cette période pour aller vers, avec les contraintes de logistique et d'assurance que l'on connaît, de sculptures qui sont parfois fragiles ou en plâtre ou monumentales. Je vous propose de valider cette convention. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vous remercie. Et je remercie, si l'hôpital jouait le jeu, Claudie Breck pour nous parler des modifications sur l'école de musique, les statuts.
Oui, merci monsieur le maire. Donc les deux délibérations suivantes concernent le Conservatoire des Landes. Pour la première, par arrêté préfectoral du 1er décembre 2022, les statuts du syndicat ont été modifiés. Le nombre de représentants désignés par les collectivités pour siéger à l'Assemblée générale a notamment été revu. Pour la ville de Mont-de-Marsan, nous devons désigner un binôme supplémentaire pour un total donc de 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants. Actuellement, siège Philippe de Marnix avec Nathalie Garcia comme suppléante, Claudie Breck avec Nathalie Gas comme suppléante, et nous vous proposons Marina Bancon, titulaire, et Françoise Cavanier comme suppléante. Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le vote au sein du conseil municipal a lieu à bulletin secret. Le conseil municipal peut toutefois décider à l'unanimité de ne pas procéder à ce bulletin secret et de voter à main levée. Donc, nous demandons aux membres de ce conseil municipal s'ils acceptent de voter à main levée et si c'est le cas, s'ils acceptent de désigner les 3 représentants titulaires et les 3 représentants suppléants cités précédemment.
Si vous en êtes d'accord, y a-t-il des voix qui sautent à main levée, si vous en êtes d'accord ? Allez, monsieur Cipierine, pardon.
Je veux bien qu'on vote à main levée.
Merci, monsieur Pierrine.
Mais je veux aussi dire un tout petit mot sur cette délibération à la fois assez dérisoire, mais tellement symbolique. Cette délibération, il en a été question en commission il y a assez longtemps. Et tout le monde, à l'unanimité, lors de cette commission, était d'accord pour dire que, en plus des deux actuels représentants, le minimum serait que l'opposition soit en troisième position. Et je dis bien, tout le monde, à ce moment-là, trouvait ça absolument évident. Un mois ou deux plus tard, nouvelle commission, c'est plus du tout le cas. Madame Cavanier a disparu des tablettes, enfin, elle est devenue suppléante, excusez-moi. Alors j'ai une question. Alors déjà, je trouve que c'est un mauvais signal que vous nous envoyez et qu'il faudrait nous envoyer des preuves d'amour, plutôt.
Je vois quelqu'un dans la salle qui ne va pas être d'accord pour que j'envoie des preuves d'amour à Mme Cavanier.
Et puis sinon, je voudrais vraiment demander sérieusement à Mme Gas et M. de Marnix, qui étaient présents à cette fameuse première réunion où il y avait une unanimité sur le sujet, si vous êtes d'accord avec cette délibération présentée aujourd'hui.
Merci pour cette réflexion sur un sujet qui est bouleversant pour l'avenir du territoire et de vraiment, honnêtement, on va se dire les choses. Pour moi, pardonnez-moi, Mme Cavanier, pour moi, tout ça, c'est pas très très grave. On est dans une structure qui est le syndicat mixte du Conservatoire des Landes, qui est d'un pluralisme très important. Je ne sais pas où sont vos arrière-pensées par rapport à une notion peut-être d'étiquette ou de je ne sais quoi. garantir que dans ce syndicat...
Non, d'intelligence intellectuelle et de pluralité des opinions justes.
Bien sûr. Mais vous n'avez pas le monopole, non pas du cœur, mais de l'intelligence, monsieur Pierrine. Et faites pas semblant de faire toujours « je suis nouveau, je comprends pas, machin, etc. » Voilà. Mais simplement, sur ce sujet-là, c'est avec plaisir qu'on accueille Mme Cavagnier. Je suis pas certain que Marina Bancon... sera à toutes les réunions. On a également une représentation plurielle au théâtre de Gascogne. Voilà. Je pense qu'on a plutôt donné des signaux qui continuent d'ouvrir un peu sur la culture. Il y a plutôt un sujet où on est assez raccord. Mais bon, après, si vous voulez chercher la petite bête à chaque fois, c'est votre responsabilité.
Merci.
De rien, c'est avec grand plaisir. Madame...
Oui, je voulais juste préciser que les réunions consistent à une seule réunion, l'AG, une AG annuelle, voilà, au conservatoire.
Voilà. Bon. Y a-t-il...
Que Marina ne soit pas là ce jour-là.
Voilà.
On s'arrangera en interne.
Y a-t-il des voix contre ? Alors d'abord, on vote à bulletin secret, à main levée. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Une voix contre, monsieur Pierrine. Donc, des abstentions. Je vous remercie. C'est voté à la majorité.
Je n'ai pas eu la réponse de madame Gast et monsieur de Marnix, s'ils étaient d'accord pour que ce qu'on décide en commission ne soit pas respecté à la fin.
Bah, a priori, ils ont voté pour, là, non ? Je ne sais pas. Bon. Attribution des bourses, chère Clotilde.
Oui, donc attribution des bourses, eh bien, comme chaque année, donc, la ville de Mont-de-Marsan attribue des bourses aux élèves montois, qui sont calculées suivant le quotient familial. Pour l'année scolaire 2022-23, 11 élèves devraient être aidés voilà, pour une prise en charge qui va de 10 à 100%. Donc nous vous demandons d'approuver l'attribution de ces bourses.
Merci Claudie. Y a-t-il des questions par rapport à cette délibération ? Des voix contre, des abstentions, merci. Hervé Bayard, il y a une faute de frappe sur le nom de l'impasse, je crois. C'est N-E-G-U-E et non pas N-E-G-R-E. Je crois.
Merci Monsieur le maire. Donc en effet, dans cette délibération... il s'agit tout simplement de procéder à la rétrocession donc, d'une voirie d'un lotissement qui vient d'être créé, un lotissement qui se situe la société qui a créé ce lotissement se situe à Maréchal Juin, mais par contre ce lotissement se situe à impasse Nègre à Mont-de-Marsan, Nègre. Voilà, donc c'est une procédure, une démarche à laquelle on procède régulièrement lorsqu'il y a de nouveaux lotissements qui sont créés, en sachant très bien que la voirie a été expertisée par nos services et qu'elle répond à un certain nombre de critères, qui, notamment techniques, qui font que cette voirie peut être intégrée au domaine public.
Merci. Y a-t-il des questionnements ? Des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Marie-Christine, pour les moustiques tigres.
Merci, Monsieur le maire. Le moustique tigre est présent dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine et sur le territoire de Mont-de-Marsan depuis 2016. Il fait l'objet d'une surveillance renforcée de l'Agence régionale de santé et de Santé publique France. La reproduction est essentiellement à proximité des habitations, dans de petits contenants d'eau, la plupart artificiels. Le moyen le plus efficace est de supprimer ces gîtes de reproduction en adoptant des gestes simples, à savoir éliminer les endroits où l'eau peut stagner. Au-delà de ces actions essentielles de lutte anti-larvaire, il faut aussi éliminer les adultes volants. Cette lutte se réalise à l'aide de pièges à moustiques. Ces pièges ont une portée limitée. Il est conseillé de créer un maillage anti-moustique. Afin d'inciter les habitants à se procurer des dispositifs d'appareils de piégeage, il est proposé au conseil municipal de renouveler la mise en place d'une aide à l'achat de ces appareils pour les particuliers afin de limiter la prolifération de ces moustiques tigres. 5 riverains voisins, dans un périmètre de 150 mètres, doivent se regrouper pour l'achat de pièges et bénéficier de la subvention. Pour rappel, une première campagne d'aide a été réalisée en 2022. 51 foyers en ont bénéficié, habitant 7 quartiers de la ville. Cette subvention proposée s'élève à 50 euros TTC par foyer fiscal et sera destiné aux habitants de la commune ayant acquis ce type de matériel chez un revendeur implanté sur le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération. Les primes seront attribuées par ordre d'arrivée des dossiers complets, et ce jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire allouée à l'opération, 5 000 euros pour l'année 2023. Il nous est donc demandé d'approuver ce dispositif d'aide à l'achat d'appareils de piégeage.
Merci pour ces précisions techniques. Y a-t-il des questions sur les moustiques tigres et sur ce dispositif, Monsieur Pierrine ?
Oui, je m'excuse, je suis nouveau, je ne suis pas spécialiste de moustiques. Nous trouvons, en Marsan citoyen, que si la problématique des moustiques est une problématique jugée très importante et très gênante, il faut sans doute mettre en place une vraie politique pour lutter contre les moustiques. Une prime de 50 euros pour des gens qui sont et qui ont les moyens de s'acheter des appareils à 200 euros, c'est ce qu'on appelle... En fait, ça ressemble à celle pour les vélos, pour des gens qui sont capables de s'acheter des vélos à 1000 euros. Donc, soit cette problématique des moustiques mérite la mise en place d'une vraie politique pour toute la ville, soit elle ne le mérite pas, et auquel cas, c'est pas la peine de donner des primes de 50 euros.
Donc j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs. Donc il y a des villes qui octroient une aide de 20 euros. Il y a d'autres villes qui prennent des arrêtés municipaux exigeant que les habitants prennent en charge ce fléau et donc vident les coupelles de tous les pots de fleurs et eux-mêmes prennent en charge. C'est l'affaire de chacun. Sachant que le moustique tigre se réactive à partir d'avril-mai, on a décidé de passer ce soir cette délibération. Sachant que 51 foyers l'année dernière donc, nous ont sollicité pour l'aide à l'achat, on ne peut pas dire que ce n'est rien. On fait un geste, mais en fait, après, chacun doit aussi se prendre en charge et agir au niveau de son jardin. On ne peut pas prendre en charge le problème des moustiques tigres sur toute la ville. Mais c'est l'affaire de nous tous.
Très bien. Je crois que ce n'est pas 200 euros le truc, hein. C'est moins cher, non ? Bon, ok. La difficulté, là, il faut qu'on a une difficulté, c'est qu'il faut que dans une rue, tout le monde fasse le dispositif. S'il n'y en a qu'un, ça pose un problème.
Je voulais rajouter que l'année dernière, le service espace vert de la ville avait organisé des animations aux jardins familiaux et pour expliquer les gestes que chacun pouvait faire chez soi. Et donc, on va reconduire cette animation cette année. On fera avec les conseils de quartier dans les vergers participatifs de la ville de Mont-de-Marsan. On vous communiquera les dates si vous voulez participer.
Donc, des animations moustiques avec les conseils de quartier. Y a-t-il des voix contre ? Donc, Monsieur Pierrine, y a-t-il des abstentions ? Ok, c'est voté à la majorité. Nous allons nous poser un peu pour... Allez-y, Monsieur Dutin.
Excusez-moi. Est-ce qu'il y aurait un mécanisme qui permettrait de descendre le store que j'ai en face ? Parce que j'ai un spot en face de moi. J'ai l'impression d'être dans un interrogatoire de commissariat, mais peut-être que certaines équipes l'ont oublié, qui m'aveugle et que j'ai donc depuis le début de la soirée. Alors, est-ce qu'il est possible, c'est épouvantable. Alors, est-ce qu'il est possible de descendre mais uniquement ce volet, hein ?
Il y a une commande.
En matière d'économie d'énergie, il va peut-être falloir conseiller à la caisse d'épargne d'éviter d'illuminer la façade de la mairie, parce que sinon les associations montoises ne vont pas pouvoir vendre des saucisses. Là, c'est le deuxième. Non, c'est pas celui-là.
Alors, c'est le troisième.
Voilà. Je vous remercie de prendre soin de moi, Monsieur Arra. Ça me fait très plaisir.
Ils vont croire qu'on fait une séance à huis clos dehors. Hein.
Non, un peu plus ? Allez-y. Je vous remercie de cette preuve d'amour.
Monsieur. un climat apaisé pour entamer les questions budgétaires. Quoi de vie de mieux. Je vais passer la parole à Christophe, qui va peut-être nous synthétiser un peu le rapport d'orientation budgétaire, et puis ensuite on ouvre la place aux échanges. Allez, Christophe Ourcade.
Mesdames et messieurs, il vous est proposé ce soir de débattre sur les orientations budgétaires que nous prévoyons pour cette année 2023 et qui pourront servir de base à la construction du budget primitif. Vous avez tous été destinataires du document de présentation qui retrace les différents éléments, à la fois macro et microéconomiques, mais qui fait aussi état des conditions qui, par le passé, au travers des différentes lois de finances et des contextes économiques antérieurs, ont conduit à notre situation actuelle et nous amènent aujourd'hui à envisager l'avenir de notre territoire tout en prenant en compte les contraintes financières, économiques, nationales ou internationales. Ce DOB a aussi pour but d'éclairer les élus sur les projets futurs et les orientations à venir. Le budget 2023 s'inscrit dans une projection de la période délicate et tendue, avec le maintien d'une inflation élevée et peut-être même en augmentation sur les dernières prévisions, liées au coût des matières, des fluides et des services, une croissance atone et une remontée des taux d'intérêt. Mais les incertitudes ne doivent pas empêcher notre commune de préparer l'avenir au travers de la mise en œuvre du plan climat évoqué en début de rapport. Je passe donc rapidement le contexte et les perspectives économiques pour 2023, on ne peut plus hypothétique à ce jour, et qui, compte tenu de la situation mondiale, ne laisse pas présager d'une amélioration à court terme des finances des collectivités locales qui, compte tenu des hausses des prix et des coûts salariaux, risquent de voir leur épargne brute en fort repli. À partir de la page 19, vous retrouvez dans la seconde partie la rétrospective du budget communal de 2016 à 2020, qui est marquée en 2022, par la diminution des recettes de fonctionnement, en particulier due aux recettes exceptionnelles de 2021, qui provenaient des produits exceptionnels sur les indemnisations du Covid pendant cette période. Les recettes fiscales sont-elles, par contre, en progression en 2022 de l'ordre de 4%, provenant principalement de l'augmentation des droits de mutation et aussi des majorations de base. Malgré tout, les recettes de fonctionnement dépassent les niveaux avant Covid avec plus de 31 millions d'euros. En 2022, donc, les recettes baissent de l'ordre de 6% et nos dépenses progressent, elles, de près de 7%. Les hausses de l'inflation, les dépenses énergétiques et le point d'indice expliquent cette forte variation. À eux seuls, les frais de personnel augmentent de 8,2% et les charges générales de 10%. L'année 2022 devrait se solder par un excédent de fonctionnement de l'ordre de 2,8 millions entre les dépenses et les recettes réalisées, qui, compte tenu des résultats de fonctionnement reportés et des opérations d'ordre, permet de dégager en 2022 un excédent de fonctionnement de 4,8 millions. Cela nous amène encore une fois à vous faire remarquer la faiblesse de notre potentiel fiscal par rapport aux communes de notre strate et l'insuffisante richesse fiscale de notre commune, puisque le potentiel fiscal fait apparaître un manque à gagner théorique de l'ordre de 8 millions d'euros. Les pages suivantes concernent le volet RH du DOB. Et vous constatez que les charges de personnel qui représentent 363 euros par habitant au lieu des 775 pour les communes de notre strate s'expliquent par le fort degré d'intégration de notre agglomération. Les effectifs sont en légère augmentation avec 294 agents, toujours majoritairement à près de 74% représentés par des hommes et à 77% dans la filiale technique, également surreprésentés par des agents titulaires de catégorie C à hauteur de 86% des emplois. On remarquera une stabilité de la pyramide des âges, mais une proportion grandissante des agents de plus de 50 ans et une quinzaine de départs à la retraite seront prévus cette année. Vous avez également pu lire les éléments relatifs à la formation professionnelle, la prévention des risques et constater les efforts réalisés ces dernières années pour accompagner nos agents. En 2023, avec des budgets prévisionnels en hausse, nous maintiendrons ces efforts. En termes de perspectives RH, nous avons envisagé dans le prévisionnel de fonctionnement des évolutions qui vont encore impacter le budget avec, par exemple, une potentielle augmentation et revalorisation du point d'indice ainsi que des enveloppes pour le RIFSEP et l'IFCE. Vous aurez ensuite pris connaissance de la situation de notre épargne et des investissements. Nous avons maintenu en 2022 sur le budget de la ville un niveau d'investissement de l'ordre de 5,3 millions, dont les principaux investissements ont été réalisés dans le cadre du développement de la ville, de la voirie, du sport et de l'équipement de nos agents. En matière de dette, nous avons poursuivi notre démarche de désendettement de la collectivité et depuis 2015, l'encours de la dette qui concerne la ville et les budgets annexes diminue progressivement. Pour rappel, en 2020 et 2021, nous n'avions mobilisé aucun emprunt. Sur le budget principal de la ville, le capital restant dû des emprunts s'élève à 33,7 millions et est sécurisé avec un risque d'exposition aux variations de taux très faible et un taux globalement moyen à 2,98%. La durée résiduelle moyenne de l'encours de dette est de 11 ans et 8 mois et la capacité de désendettement de 10 ans pour 2022, qui est inférieure aux 12 ans qui sont préconisés par l'État. Concernant maintenant la prospective des équilibres financiers sur une période pluriannuelle de 3 ans, en termes de fonctionnement, nous continuerons à faire des efforts et tout est mis en œuvre pour améliorer la situation, mais rien n'est acquis. Et il nous faut continuer sur cette voie pour nous permettre de maintenir un autofinancement positif, un taux d'épargne à 10% et une capacité de désendettement inférieure à 12 ans. C'est pour cela que nous maintenons des efforts pour optimiser notre fonctionnement en maîtrisant nos dépenses tout en soutenant l'investissement. Sur la page 42, vous avez pu vous retrouver un tableau consolidé qui concerne la ville et les budgets annexes. Il s'agit d'une projection basée sur le principe de prudence, mais qui intègre encore, par exemple pour 2023, le FPIC. Cette projection permet de suivre les principaux indicateurs, comme l'épargne nette, mais qui devra être réajustée chaque année. Et il faudra également veiller à ne pas avoir une augmentation trop rapide des dépenses par rapport aux recettes de fonctionnement, véritable gageur en ces temps qui courent. La projection consolidée affiche une dégradation de nos épargnes pour 2023. L'épargne nette négative affichée en 2023 est due à une forte augmentation des dépenses dues à l'inflation et des énergies. Cette projection affiche une hypothèse d'évolution des dépenses de fonctionnement à hauteur de 5,7% en 2023, avec 70% de plus pour les fluides et 3% pour les charges de personnel. Pour les années suivantes, il est projeté une hausse de 1% par an des charges générales et de 1,5% des frais de personnel. Compte tenu des prévisions d'inflation, cette évolution reste cependant incertaine. Concernant les recettes de fonctionnement, aucune évolution à ce stade des taux fiscaux n'est envisagée. Il est prévu une augmentation des bases de l'ordre de 5 à 6% en 2023, puis 2% les années suivantes. Enfin, dans la dernière partie de ce rapport, sont retracées les différentes orientations dont nous pouvons débattre ce soir pour le budget de 2023. En termes de fonctionnement, donc, nous avons intégré un renchérissement des matières premières et de l'ensemble des prix pour les marchés publics. En termes RH, comme nous l'avons déjà évoqué, l'évolution des dépenses de personnel serait de 3% avec une poursuite de l'accompagnement des démarches RPS. Les charges financières seront sûrement en augmentation du fait de l'envolée des taux, même si nous sommes peu exposés au risque de taux actuellement. En matière de solidarité d'accompagnement social et médico-social de nos administrés, nous maintenons nos soutiens aux CCAS et aux associations montoises. En matière de recettes de fonctionnement, sur la partie fiscale, nous intégrons l'actualisation des bases de taux. La DGF, quant à elle, reste stable. En termes d'investissement, où les dépenses d'équipement restent encore subventionnées dans certains domaines, grâce aux différents domaines, grâce aux différents dispositifs de l'État, dont le DSIL. Nous poursuivrons les projets prioritaires du mandat, à savoir l'optimisation et l'aménagement durable de notre territoire, avec la mise en place du plan climat et sa stratégie bas carbone de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de sobriété énergétique et du diagnostic énergie. La poursuite des travaux en vue de l'amélioration des performances énergétiques de nos équipements. L'attractivité du cœur de ville avec la végétalisation de l'îlot Lolon et la poursuite de l'opération des ravalements de façade. La sécurisation du centre-ville et des quartiers avec le développement de la vidéoprotection. La poursuite des travaux en matière de voirie avec l'enfouissement des réseaux et les travaux sur l'avenue de Sèvres. Enfin, en matière culturelle, la participation aux travaux du Café Musique et peut-être le début des travaux pour le musée.
Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, Christophe Ourcade. Allez, donc l'idée, c'est de débattre, bien évidemment. Madame Piau.
Oui, alors bien sûr, j'interviens au nom du groupe, hein, le Nouvel Élan Populaire. Alors bien sûr, il n'y a pas de vote sur l'orientation budgétaire, mais nous prenons acte donc de ce débat et nous ferons des propositions d'amendements lors du vote du budget. Alors, les ratios que vous avez... Enfin, il y a plusieurs choses à dire, hein, mais en tout cas, déjà, les ratios que vous avez présentés dans le document nous semblent très mauvais. Et on peut voir, tout à l'heure on en a parlé, que toute la capacité d'investissement est tournée vers le nouveau musée. Et donc cela obère beaucoup d'autres choses. Nous remarquons aussi la hausse des 7%, enfin de 7% des bases fiscales sur le foncier. Ça nous apparaît quand même être un mauvais signal. Vous dites que c'est dans 2 ans. Non, ça va être tout de suite. Enfin, bon, donc... on voit bien que vous avez de nouveaux recours à l'augmentation des impôts. Et nous savons qu'il est prévu de la part de l'agglo. Oui, alors c'est automatique, bien sûr, mais enfin, voilà, c'est quand même un mauvais signal. Et nous savons qu'il est prévu, donc, au Conseil communautaire, hein, d'augmenter les taux des impôts et d'augmenter en septembre les tarifications des services publics, en l'occurrence la cantine. Alors vous imaginez bien que lors du prochain... Conseil municipal, nous voterons contre ce budget. L'orientation ne nous convainc pas.
Attendez qu'on vous le présente, Madame Piau.
Je pense. D'accord, bien sûr, mais espérons que nos amendements seront pris en compte alors, ce dont on doute.
Je pense que vous avez peut-être mal compris ce que j'ai dit. Je n'ai jamais parlé d'augmentation des taux, j'ai parlé d'une revalorisation des bases.
Base, oui.
Et les bases, ce n'est pas nous qui les décidons.
Mais, oui, bien sûr.
D'accord.
Mais à l'agglo, je crois qu'il y a les taux aussi.
Bah, l'agglo, oui. on verra l'agglo, mais...
Et à la ville.
Oui, oui. Enfin bon. Mais c'est votre gouvernement, il me semble.
La thématique du débat n'étant pas celle-là, mais bien les orientations budgétaires. Revenons. Qui veut prendre la parole sur ce débat d'orientation budgétaire? Monsieur Pierre, il voulait dire quelque chose? Allez-y. Non? Je suis déçu. Deux, trois. Alors, j'essaye de... pour Madame Piau, juste vous dire que la capacité de financement serait limitée au seul musée. D'ailleurs, si c'était le cas, bon, on n'aurait pas à rougir de ça, parce que c'est un projet d'envergure. Non, justement. C'est-à-dire que le phasage de ce musée permet aussi de continuer, puisqu'il y a quand même de l'argent qui est versé sur le Café Musique. Vous savez que nous avons un programme sur l'îlot Lolom qui démarre. Donc l'île Lolom, c'est bien aussi du financement ville. Vous savez également que nous participons par des fonds de concours inversés à hauteur de 600 000 euros par an fois 3, 1,8 million sur l'entrée ouest, la fameuse avenue de Sabre, avenue Henri-Farbos, dont les travaux ont démarré, donc on y est dessus. Vous savez qu'il peut y avoir une réflexion sur la stratégie, mais on en parlera avec les différents potentiels financeurs, la stratégie de politique de nos terrains de sport. Voilà, donc il y aura le musée, bien sûr, qui ne démarrera pas forcément tout de suite, mais sur lequel on a des travaux qui vont générer des frais, mais il n'y a pas que le musée, heureusement. Hein. Donc il y a quand même un certain nombre d'investissements qui vont voir le jour et qui sont d'ores et déjà engagés et qui font qu'on est sur plusieurs chantiers à la fois. En ce qui concerne les impôts, donc nous on a la main sur les taux. C'est un vrai sujet. Il faut tenir compte aussi du pouvoir d'achat des gens, des augmentations par ailleurs, parce que sur une feuille d'impôt, il n'y a pas que la ville, il y a l'agglo, il y a le département, il y a la GEMAPI, les ordures ménagères. Voilà. Il faut regarder un peu tout ça et être cohérent dans une approche fiscale globale.
La taxe LGV.
Oui, ça. Qui est une taxe, mais qui pourra générer aussi des recettes et un désenclavement du territoire. Mais là, on a tous, y compris dans votre famille, si je puis m'exprimer ainsi, des avis qui peuvent être différents, et c'est ce qui fait la richesse du débat, en tout cas sur la LGV. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voudriez souligner, Monsieur Dutin?
Oui. J'ai entendu Monsieur Ourcade, hein, les propos liminaires, finalement, pour nous présenter un budget, ou des orientations budgétaires, plutôt, mais... derrière les orientations se dessine évidemment un budget, d'accord. Céline Piau le disait tout à l'heure, nous ferons part effectivement des propositions qui sont les nôtres. Je disais tout à l'heure que dans votre propos liminaire, vous évoquiez un certain nombre de conditions ou de circonstances, notamment de circonstances nationales ou internationales. Hein. Je veux dire que dans le rapport, et notamment dans l'annexe à votre rapport, c'est plusieurs pages qui y sont consacrées, qui sont effectivement extrêmement instructives, hein, qu'il y ait une augmentation du prix des matières premières, nous n'en doutons pas, qu'il y ait une croissance à tonnes, sont vos propres termes, nous le constatons, qu'il y ait une augmentation du prix des marchés publics, qu'il y ait effectivement le retentissement de la croissance mondiale sur fond d'inflation record, il n'y a pas de souci, qu'il y ait un risque important de récession économique. Tout ça, je développe ce que vous nous avez indiqué. Hein. Qu'il y ait un risque important de récession économique avec une zone euro qui va être particulièrement exposée aux répercussions économiques du conflit en Ukraine et avec donc des conséquences sur l'approvisionnement énergétique. Merci d'avoir fait le commentateur journalistique. Mais il n'y a pas que notre commune de Mont-de-Marsan qui est impactée par cela. Je veux dire que toutes les collectivités sont impactées par ces phénomènes. Et pour autant, effectivement, certaines essaient d'avoir des programmes d'investissement qui soient plus ambitieux. Tout à l'heure, Céline l'indiquait, je ne dis pas que c'est mal qu'une grande partie de notre investissement soit affectée au musée. C'est une chose. Après, je constate tout de même que... c'est des projets qui ne se font pas en une seconde, mais tout de même, on a une espèce de tempo dont on finit bientôt par ne plus voir la fin. Alors, parce que vous nous donnez ce prévisionnel, mais sous réserve des fouilles. On sait très bien l'allusion à laquelle vous faisiez, ou plutôt la réflexion à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, qui est parfaitement exacte, qui risque donc de repousser peut-être, si nous avons de mauvaises surprises sur les fouilles à ce niveau-là, et chaque fois qu'il y a eu des travaux d'envergure, nous savons ce que nous avons trouvé. Donc, nous sommes à 2029 et plus, si affinité. Tout à l'heure, je plaisantais effectivement sur les mandatures. Peut-être qu'il en faudra plusieurs, autres. Bon, et donc, je voulais effectivement dire que les investissements qui sont programmés par notre collectivité, manifestement, ils sont limités. Pourquoi ? Parce que nous payons, mais ça, au-delà des considérations nationales et internationales, vous ne faites jamais allusion, ce qui est bien normal, je ne vous le reproche pas, c'est de bonne guerre, mais vous ne faites absolument pas allusion à notre passif, c'est-à-dire au passif des choix politiques qui ont été faits jusqu'à l'heure, qui ne nous permettent pas donc d'avoir des capacités suffisantes, qui font que nous sommes dans des situations ou dans une situation financière qui n'est pas reluisante par nous-mêmes, sans que ce soit toujours les facteurs extérieurs. J'aimerais que, parfois, on raisonne avec nos propres erreurs, ou celles qui ont été commises par les équipes qui se sont succédées. Je parlais donc tout à l'heure d'erreurs dans un certain nombre de choix politiques. On l'a souvent débattu ici, et vous connaissez la position de notre groupe en la matière. Ces choix politiques qui ont entraîné parfois des fiascos économiques. On ne va pas revenir toujours parce que le comique de répétition, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit du comique, mais ce phénomène de répétition, on ne va pas insister sur les grands débats que nous avons eus effectivement autour de cette table. Tout ça fait que, au-delà de ce que vous signalez, et qui existe, mais tout cela fait que tout de même, eh bien, nous avons des orientations budgétaires qui sont impactées, qui donc vont manquer de souffle sur certains domaines et qui nous contraignent nécessairement. Alors je sais qu'on va me répondre, mais nous voulons être des bons gestionnaires, c'est évident, et ça personne ne viendra vous critiquer. Je pense qu'il serait plus raisonnable et plus loyal, tout simplement, d'admettre qu'il n'y a pas que l'international qui pèse, mais qu'il y a le loco-local, et que ce loco-local, à partir des choix qui ont été faits dans le passé, eh bien, font que, pour l'instant, vous nous présentez ces orientations qui ne nous satisfont pas. Tout à l'heure, Céline Piau évoquait effectivement les ratios qui laissent effectivement à désirer cet investissement, etc. etc. Nous reviendrons évidemment à l'occasion du budget sur tout cela, mais voilà tout de même la position que nous voulions indiquer ce soir dans le cadre de votre assemblée.
Merci. Dans le cadre de ce débat, j'ai plusieurs réflexions. Je crois qu'on ne nie absolument pas qu'il peut y avoir des choses qui, si c'était à refaire, on referait différemment. Tout n'est pas lié à l'Ukraine, au Covid, à la crise de l'énergie, etc. Ça a un impact malgré tout important, hein, quand on voit les chiffres, j'ai plus les éléments, mais apprêtez-vous à voir des montants qui font que sur une note d'électricité ou d'énergie de 1 million d'euros, on va passer à 1,5 million ou à 1,6 million. Voilà, ça c'est quand même des choses importantes. C'est plus 66% sur l'énergie, plus 24% sur les combustibles, plus 10% sur l'alimentation. Donc c'est vrai que ça oblige à une certaine responsabilité, parce qu'on ne veut pas impacter tout sur la fiscalité ou ce que payent les usagers. Bien au contraire. Donc il y a des orientations, c'est sur le fonctionnement, on parlera de l'investissement après, qui continuent d'être vertueuses. On dématérialise, on numérise à bloc, alors même si tout le monde n'est pas branché sur les QR codes, mais on essaye de diminuer, dématérialiser les opérations pour pouvoir les rendre peut-être plus économes aussi. On travaille sur l'isolation des bâtiments publics. On va aller vers une réduction des budgets d'annonces, d'insertion, de catalogues. Voilà. Donc c'est tous ces éléments-là. N'empêche que derrière, il y a des impacts qui sont exogènes. Et puis après, moi, j'ai aucun problème à dire qu'il y a des choses peut-être qu'on aurait dû faire différemment. Voilà. On aurait aimé que ça se passe différemment. Léa, le Bill Toki, on aurait aimé que ça se passe différemment. On a tenté. La différence, c'est que moi, je pense que ça n'a pas coûté tant que ça aux contribuables, si on fait le compte à la fin. Mais je pense qu'il fallait le tenter. En tout cas, voilà. Le fait que parfois, dans nos rues piétonnes, ici ou ailleurs, on ait des commerces qui ferment. Heureusement, il y en a qui ouvrent. Mais on est dans un pays de liberté. Et on a parfois des politiques de franchisés nationaux qui décident ou qui subissent parfois des contre-coups de l'Internet et autres, et ça ferme. Donc ça, c'est des regrets que nous avons aussi, même si le taux de vacances, il a quand même un petit peu diminué, puisqu'il est passé de 20 à 10%. Voilà, on a des augmentations de travaux aussi, qui nous obligent à planifier les choses. Hein. Aujourd'hui, quand on fait une opération, un devis, un estimatif, ben, au moment où on a les réalités des devis, on a parfois des plus-values. Voilà. Il y a des choses comme ça. On a eu des impacts, voilà, alors c'est ici ou ailleurs, mais bien évidemment, des impacts liés à des... par exemple, Rozanov, c'est une bonne nouvelle, l'île Rozanov qu'on a pu mettre à plat, où on va faire évoluer les choses dans le cadre de la rénovation d'Hélène Boucher, mais c'est aussi des opérations qu'on aurait pu mener un peu différemment. Donc moi, je n'ai pas de problème pour dire que tout n'est pas de la faute de l'Ukraine et de la crise. Mais il faut faire avec. Après, moi, je voudrais, sans faire de l'optimisme BA, mais vous dire qu'il y a quand même des points forts, parce que malgré ça, malgré ces éléments-là, il y a eu quand même des créations de nouveaux commerces, il y a un taux de vacances qui a baissé, on arrive à maintenir notre offre culturelle. Quoi que vous en disiez, on met le paquet sur les associations, on n'a pas baissé, au contraire. On regagne petit à petit des habitants, mais il ne faut pas s'enflammer parce que c'est sur des tendances longues que ça se regarde. On a des projets comme l'île Lolom, Sabre. Bien évidemment, le volume d'investissement n'est pas celui qui était là en 2008 ou en 2014, parce que les choses ont un peu changé. Donc on les planifie, mais c'est, je crois, 22 millions d'euros qui vont être investis jusqu'à la fin du mandat, donc ce n'est pas neutre. On investit sur le vélo, on a parlé du Harbo, c'est une infrastructure. Demain, les cours de tennis, les façades. On a repris la main sur les nouvelles galeries, même si ce dossier, il n'est pas facile. On a au moins le mérite d'avoir la main sur ce dossier-là, d'avoir fait avancer les choses. On n'a pas envie de reprendre pour 20 ans de plus. On a avancé sur Saint-Médard, je vous l'ai dit, sur Rozanov, sur plein d'autres choses. On travaille aussi, c'est pas nous directement, mais le fait aussi qu'on montre ses gages, et ça attire aussi des investisseurs, des programmes sur certaines friches. C'est pas nous directement, mais la laïcité, l'avenue de la gare, il y a des choses qui arrivent. Peut-être que dans d'autres périodes, c'était plus compliqué. La clinique des Landes, les abattoirs en ce moment qui sont en train de détruire avec un plan friche. L'État nous aide là-dessus pour que les choses mutent. Voilà, il y a le taux de logement social ou logement conventionné. On était un petit peu en retard, on rattrape ce taux-là. Donc voilà, il y a bien évidemment des difficultés qui ne sont pas toutes liées à des phénomènes exogènes, qui sont liées à des décisions à un moment donné. Peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment, mais il y a aussi des points d'appui qui sont intéressants. Puis il y a des partenaires autour de nous qui investissent sur ce territoire. Hein, l'hôpital qui est en train d'investir, de pousser un petit peu les murs, d'être de plus en plus attractif. La Caisse, la CPAM, la CAF qui ont investi également. Donc voilà, il y a aussi des indicateurs qui nous permettent de penser que tout n'a pas été facile, mais il y a des choses qui se négocient plutôt bien. Est-ce que vous voulez encore prendre la parole sur le débat d'orientation budgétaire, Monsieur Pierrine?
Alors j'ai cinq toutes petites questions très concrètes, mais peut-être que c'est trop tôt et que ça doit attendre le prochain conseil municipal, il faudra me dire. En 2021, à la ligne sport, vous envisagiez pour 2023 300 000 euros qui seront finalement 1,6 million. Et je n'ai pas du tout entendu parler de projet d'envergure en sport, donc j'aurais aimé savoir éventuellement de quoi il s'agit. Au sujet de la performance énergétique, vous semblez maintenir 100 000 euros en constant chaque année. Est-ce que c'est bien ces chiffres-là qu'il faut prendre en compte? Au sujet des conseils de quartier, vous étiez engagé à augmenter l'enveloppe à 300 000 euros et elle est restée à 100 000. Est-ce que vous confirmez l'information? Alors j'ai une question qui n'est pas essentielle, mais que j'essaie de poser depuis longtemps. J'essaie d'avoir quelque part une information sur l'argent qui sera réservé au conseil municipal des enfants, parce qu'il y a des gens qui ont pas mal travaillé sur ce sujet, les enfants compris, et j'ai l'impression qu'on leur répond toujours qu'on ne sait pas ce qui sera attribué dans cette section. Et j'avais une cinquième question, mais pour le moment, je me l'oublie.
Je laisse Farid répondre sur le sport, sur le diagnostic de performance énergétique, c'est 100 000 euros, mais bien évidemment, viennent s'ajouter à ça les travaux qu'on fait sur le bâtiment de terre, travaux d'économie d'énergie, etc. Donc c'est un ensemble, ça va au-delà. Oui, sur les conseils de quartier, il y a une vraie réflexion. Là, on est resté sur 100 000 cette année. On a eu une période aussi Covid, on n'a pas fait grand-chose là-dessus, ou du moins fait des choses, mais le conseil de quartier n'a pas forcément pu se réunir, etc. Donc voilà, on n'exclut pas bien évidemment de recoller à la cible qu'on avait. Sur le conseil municipal des enfants, j'ai vu une ligne de 25 000 euros, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça doit être le budget qui est consacré voilà, de 25 000 euros, il me semble. Mais tout ça, on le précisera lors du vote du budget. Sur le sport, donc, la question, c'était différence entre 300 et 1,6 million. Est-ce que là-dedans, on y voit du tennis? Est-ce qu'on y voit des terrains de sport type Boniface ou autre? Est-ce qu'on y voit un peu de la fin du Harbo? C'est peut-être ces éléments-là, mais je ne suis pas capable de vous répondre. On me dit que c'est ça, mais on essaie d'être plus précis. Le Harbo, but, Harbo 700 000, cours de tennis 500 000 euros. Alors, il y a de la subvention derrière, hein, parce qu'il faut raisonner en brut. Il y a aussi des recettes d'investissement. Et puis, un terrain, on verra, mais il faut savoir qu'un terrain, ça coûte 1 million d'euros à peu près.
Hein. Oui, et au niveau de la culture, alors que j'ai bien compris que le projet musée est un peu reporté, d'où la chute de l'enveloppe prévue initialement pour 2023. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, la maison des cultures, ou la fameuse maison des cultures, là, est aussi rangée au placard ?
Non. Alors, là, il y a un dossier, un sujet particulier sur cette maison qui regroupe surtout, d'un côté, la Fédération de course landaise et de l'autre côté, notre régie des fêtes, avec un espace partagé qui peut justement accueillir d'autres points. Je parle sous contrôle de Nathalie Garcia qui suit ce dossier. On a demandé à l'architecte de remouliner son dossier pour rentrer dans les clous parce que on est sur un dépassement de l'ordre de 200 à 300 000 euros du budget. Donc moi, je souhaite démarrer quand on a à la fois quelques certitudes sur des financements, mais surtout quand on rentre dans cette enveloppe-là. Donc il faut qu'on revisite un petit peu les choses à ce niveau-là. Et je ne veux pas me lancer comme ça en me disant, bon, ça dépasse d'ores et déjà avant de commencer, quand on sait déjà... Quand on fait les consultations, on a toujours 10-20% de plus. Je pense que c'est assez raisonnable d'attendre et de recalibrer un peu les choses. Voilà. Mais le projet n'est pas abandonné. On rencontre la Fédé de course landaise prochainement pour aborder ce sujet-là. Et je sais qu'on rechallenge le programmiste ou l'architecte, je crois, pour essayer de rentrer un peu à l'intérieur de ce qu'on s'était fixé au départ.
Une toute dernière question parce que je suis nouveau.
Non.
Sur 2024, 2025 et 2026, c'est des chiffres qui sont, non achevés, enfin, les zéros, tout ça.
Oui, là, c'est des prévisions au fil de l'eau. Il y a forcément... un prévisionnel comme celui-là, par nature, il est vivant et tous les ans, vous allez voir... c'est bourdonner une tendance, mais vous allez voir...
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas prévu de tomber à 4 millions seulement d'investissements.
Au total, ça fait 22, je crois, sur la fin du mandat, que l'on peut dépenser, c'est ça ? 8 plus 4 plus 4 plus 6. Donc c'est la totalité de ça, ouais.
Donc c'est quand même ça ?
Oui, il y a une année 8, une année 4, une année 4, une année 6. Ouais.
Alors, monsieur Eba, il n'y aura rien en sport, hein ? En 2024, 2025, rien.
Si, il y aura quand même beaucoup de travaux d'entretien, et puis... Et puis on pourra bénéficier de cette plaine d'espoir Camille Pédaré, de ce qui a été fait à Boniface jadis, ce qui a été fait à la salle Barbe d'Or, de la rénovation du Péglé, des tennis couverts. Voilà. Et on pourra pratiquer comme 52 sports différents dans de bonnes conditions avec des associations que nous soutenons à hauteur de plus d'un million d'euros. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, monsieur Ara ?
Et merci, monsieur le maire. Oui, sur ces orientations budgétaires, il y a des choses intéressantes. Monsieur Dutin, je propose qu'on regarde l'avenir, parce que vous avez une obsession comme ça. Si vous voulez qu'on remonte plus loin, on peut. Hein, en 2008, quand cette équipe est arrivée, la totalité du programme de l'équipe précédente non financée, qu'il a fallu payer, on a parlé, remettre sur les rails. On peut vous parler de l'emprunt toxique aussi, qui a grévé des finances terriblement. La vérité, c'est que ce qui a été l'élément déclencheur des problématiques financières, c'est la baisse des dotations de l'État en 2014. Je vous rappelle que tous les ans, depuis cette décision-là, on a 2 millions d'euros en moins en fonctionnement sur les caisses de la ville. 2 millions d'euros en moins chaque année sur le budget municipal. Si on les avait, on ne serait pas là. Vous parlez de fiasco financier, je n'ai toujours pas compris à quoi vous faisiez allusion, mais enfin, peu importe, on va parler d'avenir. Les Halles, il y a une décision là qui a été prise de les racheter.
Pour y faire quoi? Ça, c'est une question, puisqu'on y met 200 000 euros. Pour quel projet? Le musée, vous en avez parlé. Moi, je suis quand même surpris que ça ne vous fasse pas tiquer plus que ça, qu'on nous explique que le musée va être fermé pendant 5 ans, de l'été 2022 à l'été 2027. Oui, mais avec un peu moins de... je suis, dans ces cas-là, enfin, je sais bien que ce n'est pas du tout la faute, et vraiment, de l'adjoint à la culture, mais pourquoi est-ce qu'on a déménagé si on ne fait pas les travaux? S'ils sont décalés, puisque si vous prenez le DOB, donc document d'orientation budgétaire, en 2021, il était prévu que les travaux démarrent en 2022, pour 3 millions d'euros chaque année. En 2022, il était prévu un début des travaux en 2023 et 2024. Et là, cette année, le gros des travaux, c'est 2026. Donc un programme glisse, c'est tout à fait normal. Monsieur le maire l'a dit, c'est un projet très lourd, avec beaucoup de financement. Okay, il faudra voir si le tour de table financier peut être bouclé, parce que plus le projet augmente, plus il faut que les partenaires financiers, départements, régions, États, soient au rendez-vous. Et je le dis ouais, parce que c'est des sommes importantes. Mais dans ces cas-là, réouvrons. Enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais à la ville de la sculpture, avoir un musée fermé 5 ans, ça me paraît être un sujet qui mériterait un peu d'attention. Quant au sport, effectivement... alors, il y a des projets, hein, puisqu'on a voté la dernière fois les tennis de l'Argenté, et là, on va voter ceux de la Hiroire. Mais si vous ajoutez les deux, plus un terrain synthétique annoncé à 1 million, ben, ça ne marche pas. Il y en a un qui est en trop, au moins. Et donc ça, j'imagine qu'on le verra, ben, qu'on le verra au budget, parce que dans le texte, si vous lisez la page 46, effectivement, un nouvel revenant des terrains sportifs à la zone pleine des sports slash à Boniface, c'est une formule un peu énigmatique, mais il y aura des choix à faire, et ben, j'imagine qu'on en parlera au budget.
Monsieur Dutin.
Non, je ne vais pas faire une partie. Non. Mais d'abord, monsieur Hara, vous le savez bien. Hein, j'avais l'impression, vous savez, de ce débat Mitterrand-Giscard, l'homme du passé, l'homme du passif, c'est ridicule ce que vous nous faites là. Mais en tout état de cause, le futur se construit parce qu'on a eu un passé vertueux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un futur.
Ah, j'ai oublié un mot. Lisez le rapport de la CRC de 2017.
Voilà, voilà.
Juste celui-là.
D'accord.
Qui montre que la situation en 2017 est meilleure qu'en 2008, super. Financière de la ville.
Ben, c'est super.
Ben, donc, lisez-le, il est public.
Je vais peut-être continuer. D'accord. Donc, je disais qu'on ne peut construire effectivement le futur que parce qu'on repose effectivement sur un passé. Et donc, c'est faire un mauvais procès que de me dire que je fais allusion à un certain nombre d'événements qui sont, je l'ai déjà dit, j'ai pas eu honte de le dire et je le redirai et personne ne m'empêchera de le dire, qui ont été de véritables gabegies financières. Par exemple, puisque vous m'amenez sur ce terrain, il y a eu une politique d'investissement à une période sur cette ville qui a été trop massive et dans un laps de temps trop court qui a été mal géré, qui n'a pas été programmé sur plusieurs années. On a fait des investissements massifs à viser, à mon sens, uniquement électoraliste, et puis voilà, bon, point à la ligne. Par contre, sur effectivement le musée, tout à l'heure, je pense que vous faites exprès de ne pas avoir compris, peut-être que je l'ai manié avec humour, mais je me suis interrogé effectivement sur la difficulté qu'il y a à nous dire qu'on a une ouverture qui est une ouverture empreinte de brouillard, avec un calendrier et un tempo, c'est le mot que je reprenais tout à l'heure, qui apparaît radicalement, au moins on se rejoint sur ça, qui apparaît radicalement insuffisant, très aléatoire, et ça ne paraît pas d'une limpidité absolue et d'une clarté absolue. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les choses plus vite? Mais interrogez vos propres amis, vous faites partie de cette majorité. J'ai l'impression que vous vous interrogez à haute voix ou que vous interrogez à haute voix votre propre équipe qui mène ce projet. Ce n'est pas nous qui l'avons mené, ce projet. Mais s'interroger à haute voix, ça veut dire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des financements qui ne sont pas à la hauteur? C'est-à-dire, est-ce que notre budget... Est-ce que notre financement... D'ailleurs, je vois très bien, et c'est normal que vous fassiez appel à d'autres partenaires, au département, à la région, etc., compte tenu, effectivement, du volume du projet. Enfin, moi, je me pose la question de savoir si l'enveloppe est toujours la même, si l'enveloppe n'explose pas, et si tout cela n'entraîne pas une certaine peur ou un avancement en reculant à la fois, parce que c'est manifestement de cette question-là sur laquelle il faut apporter quelques réponses et sur laquelle j'attends, effectivement, des explications. Voilà, alors, de toute façon, le débat,
il n'est pas circonscrit uniquement aujourd'hui. Il reviendra. Ça va être un projet qui va rythmer la mandature. Alors, je sais bien que vous nous avez privés d'un fil rouge que j'avais prévu effectivement de mener, c'est celui des cinémas. Croyez bien que j'ai trouvé un autre fil rouge. Et le fil rouge, et en plus parce que les musées m'intéressent, mais ce fil rouge-là, il va falloir effectivement qu'au fur et à mesure, vous nous donniez un état de l'avancement, un tempo qui soit un tout petit peu plus précis que celui qu'on a ce soir tout de même.
Retenez, c'est bien, je pensais qu'on n'allait pas débattre, donc je commençais à m'ennuyer. Retenez une chose, retenez deux mots. Ce sera visible et irréversible, le musée. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ce musée sera engagé, les travaux seront visibles et seront irréversibles. Ça veut dire que ce projet-là, il dépasse les petites querelles des uns et des autres, etc. Et en effet, comme j'ai pu le répondre tout à l'heure à M. Pierrine, quand vous avez un prévisionnel, bah, des fois, il y a des choses, et tout le monde en convient, qui peuvent glisser. Ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui d'explosion de budget ou quoi que ce soit, on essaie de contraindre les choses, il y a beaucoup d'arbitrage, il y a une recherche de tour de table, on sait très bien qu'il y aura de toute façon aujourd'hui des plus-values sur les matériaux, et ce projet, il n'a pas véritablement bougé, sauf qu'il est phasé de façon à pouvoir le rendre visible, irréversible. Le challenge que nous avons à relever, et j'entends les propositions qui sont faites, mais Philippe, on y travaille, c'est de faire vivre la sculpture pendant cette période-là. Et on va trouver des solutions et on en trouve déjà pour le faire. Mais voilà. Mais je sais que vous avez beaucoup d'idées. Mais donc voilà. Donc ce projet-là, moi je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Il faut qu'il soit simplement engagé, visible et irréversible. C'est-à-dire que cette ville, elle mérite d'avoir un musée. Hein, je crois que c'est 2500 sculptures, 10 000 œuvres, peut-être plus. Voilà, et 15 000 œuvres. C'est quelque chose qu'une ville de 30 000 en province, c'est très très rare. Je vois des collègues qui sont des homologues à moi qui ont un musée, mais il n'y a pas grand-chose à y mettre dedans. Nous, on a beaucoup de choses et on ne sait plus où les mettre. Voilà, donc on va arriver à sortir encore plus sur les murs avec des contraintes techniques et autres. Voilà. Mais ce musée-là, retenez que s'il est phasé, d'accord, hein, je pense qu'il y a une époque où on devait faire une pépinière, on ne l'a pas faite. On devait faire le Manote, il n'a pas été fait parce qu'il y a des contraintes. Ce musée-là, on va engager les travaux, ce sera visible et ce sera irréversible, quoi qu'il arrive. D'accord ? Donc après, c'est faire vivre cette culture. Voilà. Cette sculpture, pour les éléments que j'avais ensuite à vous dire, tout a été dit, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter au débat ? Ah oui, tout à l'heure, monsieur Arra parlait de montants, un million. Les montants qu'on annonce là sont aussi des montants qui sont souvent bruts. Il faut aller chercher la subvention. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le terrain. Il faut qu'on en discute parce qu'il y aura différents partenaires. Et je sais que vous avez été approché en tant que conseiller départemental. Je sais que la région l'a été également. Bah, il faudra qu'on se mette à un moment donné très très rapidement. J'ai un courrier qui part là autour de la table ou de la piste parce qu'il y a une saisonnalité. C'est quelque chose qu'il faut faire à l'intersaison. Il ne faudra pas rater le train de cette saison-là, sinon on en prend pour une autre. Bon, mais tout ça, on était encore en réunion cette semaine avec des techniciens et avec nos services et Farid Eba. Mais quand je vous parle d'un terrain qui coûte 1 million d'euros, c'est pas 1 million d'euros pour la ville. Hein. Après, il faut partager ça. Il faut partager ça à plusieurs financeurs, d'où les montants aussi qui peuvent passer. Je vous propose de prendre acte que ce débat a eu lieu, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, et de se projeter, puisqu'on parlait de terrain, cher Farid, sur... Il faut voter. Alors, est-ce que vous êtes... Alors, c'est toujours pareil, j'ai un peu de mal avec ça. La sémantique. Y a-t-il des... Comment je le tourne, le truc ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Y a-t-il des voix qui s'opposent ou qui s'abstiendraient sur le fait que nous avons fait un débat ? Ça vous va comme tournure ? Bon, donc personne ne s'y oppose, il s'abstient. Donc ce débat a bien eu lieu et on a voté pour l'acquiescer. Farid, pour les tennis.
Non.
Merci, monsieur le maire. Donc, comme l'a dit le maire, me semble-t-il, il y a quelques instants, la ville participe ardemment au financement de la rénovation de l'avenue de Sabre, ce qu'on appelle la voie, l'entrée nord-ouest. 3 fois 600 000 euros. Donc c'était un fonds de concours inversé. C'est également un fonds de concours inversé qu'on a dû verser pour le réaménagement, par exemple, du Café Musique. Donc c'est notre contribution à la modernisation ou à l'aménagement de ces équipements, qui sont des équipements publics. Voilà, tout simplement.
Oui, 3 fois 6. Y a-t-il des remarques là, sur ce fonds de concours ? On a eu le pendant à l'aglo, on l'aura. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Les tennis, Farid Eba.
Oui, merci Monsieur le maire. Dans la continuité du réaménagement de la plaine des sports Camille Pédaré et dans le cadre de l'amélioration des conditions de jeu sur les cours de tennis, il est proposé de couvrir et de rénover la surface de jeu de 2 cours de tennis du site de l'Aïrois. Alors le coût des travaux est estimé à 590 018 euros hors taxes, dont 52 618 euros hors taxes de frais d'études et de diagnostic. La ville financera à hauteur de 328 798 euros, soit 55,73% du coût total prévisionnel d'opération. Vous avez le plan de financement ci-dessous, avec, on espère, une participation, bien évidemment, de l'État, de la Fédération française de tennis qui intervient sur les équipements, le conseil départemental des Landes et la ville de Mont-de-Marsan, bien évidemment. Juste quelques informations sur l'activité du stade Montois Tennis. Le stade Montois Tennis est 400 licenciés en 2022. C'est le 39e club de Ligue Nouvelle-Aquitaine qui comprend 830 clubs de tennis. Une belle école de tennis jeune aussi, qui comprend 186 élèves cette année. Ce nombre ne fait que croître d'année en année. Alors pour assurer la formation des jeunes, le stade Montois Tennis Paddle emploie 2 moniteurs de tennis diplômés d'État, dont un en CDI et l'autre emploi et contractualisé via Profession Sport. Beaucoup de récompenses, aussi un classement. En 2022, challenge des clubs galaxies concernant la formation des enfants nés en 2012 et 2016. Le stade Montois se classe 10e sur 830 clubs. De Nouvelle-Aquitaine, le challenge des meilleurs clubs jeunes landais, premier dans la catégorie plus de 110 licenciés jeunes. Et le stade Montois Tennis Padel met en place aussi une politique de développement sportif du club, répondant à des critères définis par la Ligue, qui permet de classer le club à un niveau 4 sur 5, et seulement 20 clubs de Nouvelle-Aquitaine possèdent ce classement. Alors, le stade Montois Tennis fait face à une forte demande de cours chez les jeunes, et ne pouvant pas garantir à tous les élèves la continuité des cours en hiver, notamment, seulement 72 jeunes peuvent profiter des cours de perfectionnement. Et c'est vrai que l'apport de cette nouvelle salle permettra de répondre à la forte demande et par conséquent de créer du travail et des créneaux d'entraînement. Le stade Montois Tennis aussi, je voudrais ajouter, s'investit dans le sport adapté avec l'accueil de groupes de personnes jeunes et moins jeunes en situation de handicap et pourquoi pas prochainement un partenariat avec la nouvelle structure spécialisée initié par le conseil départemental, pour les jeunes qui ont un trouble du spectre autistique et qui va être proche du site de l'Aïrois. Le stade Montois Tennis accueille sur certaines périodes de l'année des personnes hospitalisées en long cours en secteur de psychiatrie adulte présentant un handicap mental grâce à une convention passée avec le CHI de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources. Et bien sûr, ils ont un partenariat aussi avec le SSID. Et c'est très bien. Voilà. Merci.
Des questions, des remarques, des voix contre, des abstentions. Je vous remercie. Une dernière chose avant. Merci, monsieur Eba. Dernière chose. Vous
dire, excusez-moi, ça va trop vite là. Je vais faire très court, mais. Je me suis déjà exprimé sur les cours de l'Aïrois et nous estimons que toute nouvelle construction qui fait abstraction de l'autonomie énergétique est obsolète et nous sommes contre.
Alors, il n'y a pas de chauffage, donc ça va régler le problème.
Il va y avoir un peu de lumière, j'espère.
Et en LED. Donc c'est 50% d'économie.
Oui, il n'y a pas de... Tous les organismes, y compris indépendants, neutres et autres, nous ont dit que le photovoltaïque à cet endroit-là ne permettait pas. Mais cela dit, voilà. Donc il y a une voix contre sur cette délibération. Juste avant de... Donc c'est voté à la majorité avec une voix contre. Juste une chose. Un, d'abord remercier à la fois mes proches collaborateurs qui sont derrière moi, les remercier du fond du cœur, remercier l'ensemble des services qui ont participé à ces travaux à ce conseil municipal, qu'ils soient remerciés, remercier tout particulièrement autour de Karine Lamontagne, une équipe exceptionnelle qui est l'équipe de notre direction des affaires juridiques. Ce n'est pas Pascale Auré qui va me démentir, elle qui vous donne rendez-vous avec moi pour l'annonce de cartel samedi à 17h au théâtre et aller le stade Montois contre Béziers. Merci.